Allô?
Allô Clément?
Ouais.
Ouais, c'est Romain.
Ça va?
Ça va? Ouais. Je suis bloqué dans les grèves. C'est le bordel.
Arrête un peu.
C'est comme tu peux l'entendre, c'est un peu le bordel là. Du coup, l'émission, l'enregistrement.
Ouais, on t'attend.
Oui, ben justement, je pourrais pas être là.
Arrête un peu.
Non, je peux pas. Il n'y a pas de transport. Il y a plus d'espoir. C'est le bordel, c'est l'apocalypse. Tu peux prendre ma place?
Mais non, mais absolument pas, mais j'ai rien préparé moi.
Bah si, mais non, mais je t'envoie mes notes, il n'y a pas de problème. Tu vas y arriver, il y a aucun souci.
Mais
Faut
non.
que je te laisse, ça commence à pousser de tous les côtés. Wow, ça chauffe.
Oh
Et
merde, ok. Bon, bah ok. Bah s'il dit, c'est que ça fait sens.
In a world.
No in a world, Jack.
What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh, ok.
Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans FETABEA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, nous...
pardon, excuse-moi, mais t'es qui?
Bah, je suis Clément.
Il est où Romain?
Qu'est-ce que tu fais à la place de Romain?
Romain, malheureusement, a été victime, une des nombreuses victimes collatérales des grèves. Et il m'a désigné pour le remplacer aujourd'hui.
Non, mais on peut le dire qu'il fait la grève. Hein.
En ouais. fait, en
il
fait,
pense à ses
en fait,
retraites.
Voilà, en fait, c'est la réalité, c'est qu'il fait la grève du podcast. Il est le seul en France à la faire.
Il veut que le podcast soit reconnu donc, comme un vrai métier.
Il a prévu un jour d'enregistrement, mais il n'est pas venu. Voilà.
Ouais, parce qu'il faut savoir qu'on cotise pas nous. Hein.
Ouais, non, nous, on cotise pas.
On n'a pas de point retraite.
Hein. Et on est des schlags. Alors, je vais faire l'intro prévue. Tu vas te démerder, Romain, au montage. Hein. Excuse-moi. Alors, mère, père. Frère, sœur, esprit, élément, enfant de Dieu, qui que tu sois, bienvenue dans FETABEA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, vent, souffle, lumière divine, sans aucune sainte objectivité. Aujourd'hui, réalisme, humanisme, naturalisme, panthéisme et tout plein d'autres mots en isme afin de parler du malixisme, un style à part entière qui découle du mystérieux cinéma de Terrence Malick, un cinéma qui divise et dont nous allons aborder les aspects en se faisant la BA de son dernier film, Une vie cachée. BA qui, je le rappelle, est comme à chaque émission glissée en lien dans la description de cet épisode. Cette fois-ci, c'est d'une vie cachée dont on s'est amouraché. Mais attention, Une vie cachée n'est pas un film comme son nom pourrait l'indiquer sur Xavier Dupont de Ligonnès. Non, non, cela semble être tout autre chose. Et avec moi, pour en parler autour de la table, mes frères, mes sœurs, autrement dit la famille FETABEA, qui elle aussi chuchote en secret les résonances diverses que peut avoir la philosophie du cinéaste dans notre fort intérieur. Pour vous les présenter, je propose une ambiance nature et découverte, ambiance cœur et chuchotement. Autour de la table aujourd'hui, Erwan.
Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube.
Ouais, c'est la version allemande.
Est-ce qu'en allemand c'est chuchoté? Wow.
Est-ce que tu parles parfaitement autrichien?
Lieber den Spatz in der Hand als
oui, voilà, là c'est plus fidèle à ce qu'on peut se...
Tu rappelles les heures sombres de l'histoire, attention.
Kevin également avec nous pour nous chuchoter à l'oreille.
Bonjour, le monde est une boîte dont le couvercle est le ciel étoilé. Tu
wow.
me manques, je t'aime.
Waouh, c'est
la tête des violons.
Ça fait des petits papillons,
franchement,
ça fait un peu de la SMR. Hein.
J'ai eu un
ouais,
peu les
ça.
Poils. Clémence avec nous également.
Bonjour. J'ai trouvé dans ma chevelure un cheveu qui n'était pas à moi.
Oh.
Waouh. C'est vachement puissant. J'aime bien quand vous faites de la SMR. Johanna autour de la table.
Bonjour. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
C'est vrai, c'est vrai. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Une expression que je n'ai jamais vraiment compris. Au sommaire de cette émission, chers auditeurs, je vous conseille de vous attacher, car pour donner suite à votre clic, nous diviserons les passions avec la BA d'une vie cachée de Terrence Malick, vous l'aurez compris. De quoi revenir sur sa filmographie à qui l'on colle toutes sortes d'adjectifs allant des plus dithyrambiques aux plus dépréciatifs, comme c'est le cas ici d'ailleurs autour de la table chez Feta BA. Et c'est ensemble que le débat prendra place, à la manière d'une caméra qui virevolte dans l'espace. Sommes-nous là face à un génie qui à jamais laissera une trace, ou bien n'est-ce que ruse et farce de cinéaste finalement peu perspicace ? Puis, après ces diatribes que l'on veut efficaces, et avant que notre temps ne s'efface, viendront en bribe nos avis sur la famille Adams. Voilà le programme, messieurs.
Oh, la rime, elle est pauvre, là.
Fausse rime.
Mais je donne 15 points pour diatribe.
Et sans plus tarder, je propose de mettre fin à cet ersatz de slam et d'embarquer sereins et sereines sur la BA de la semaine. C'est pas moi qui écris, hein, je précise, c'est Romain qui est notre auteur. Alors, il n'était pas en grève pour ce qui est d'écrire, mais il était en grève pour ce qui est des transports. Alors, la BA d'une vie cachée, eh bien, je propose qu'on se la regarde tous ensemble, si vous le voulez bien.
C'est parti.
Ok. Ah oui.
I had a dream. I thought that we could build our nest high up in the trees. Fly away like birds to the mountains. Swear loyalty to Hitler.
Do you think your defiance will change the course of things?
I can't do what I believe is wrong. We have to stand up to evil. What's happened to our country? To the land we love?
You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor.
Whatever you do, I'm with you. Always. Ah. 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 Un beau vol. Est-ce que vous pouvez me faire une réaction pastorale?
Ok.
Ça passe en Bretagne, en fait.
Voilà, chers auditeurs, ce que nous inspire cette BA.
C'est un gros bordel.
Un grand bordel naturaliste. Mais avant de passer dans l'analyse plan par plan de cette bande-annonce, je vous propose qu'on fasse appel à notre décrypteur préféré, El Calculator, c'est à toi. C'est moi, c'est moi. Bonjour les amis autrichiens.
Guten Tag.
Ah, Guten Tag.
On est français, ouais.
Mais non, ça se passe au Népal.
Waouh, vous parlez très bien. Dans Une vie cachée, il y a 49 plans en 1 minute 38, soit 0,5 plans par seconde. C'est légèrement en dessous de la moyenne habituelle, mais le rythme est lent.
Ok.
C'est vrai, El Calculator, tu as totalement raison.
Et El Calculator, tu connais Terrence Malick ?
Non, qui est-ce ? Merci, El Calculator.
Bon, El Calculator, Viguette.
C'est quoi Viguette ?
Viguette, comment ça veut dire comment ça va ?
Je ne parle pas cette langue, Clémence. Merci de me parler en français ou roumain. Fabriqué en Roumanie.
Ah oui, il faut dire à Romain de le régler là pour qu'il parle d'autres langues.
Ouais, bah oui. Bon,
et t'as pensé quoi de cette bande-annonce, El Calculator ?
C'est inhabituel. Au revoir.
Ok. Oh, le
okay.
Ah
bon,
oui,
bah,
d'accord, le mec.
Il avait rien à dire, c'est ça.
Il était mal à l'aise.
Je crois qu'il était mal à l'aise.
Je pense que Malick, il est pas très.
Malick l'a mis en PLS.
C'est
ça qu'on l'interroge sur Hitler la prochaine fois.
Ouais, on lui demandera son. Il a pas encore une base de données historique très développée. Écoutez, alors quelles sont vos impressions? On va commencer par le début, un premier plan.
Attends, avant le premier plan, il y a plein de critiques.
Oui, mais c'est sur le premier plan. C'est-à-dire que normalement, c'est vrai que tu as raison, Joannelle, il y a plein de critiques sur la BA, mais c'est rare qu'elle soit intégrée aux images même du film. Normalement, on a un carton qui nous explique le plus grand chef-d'œuvre du XXIe siècle. Mais là, c'est intégré carrément sur les images du film. Et dès le premier plan, on a tout un tas de critiques.
Du Point, du Figaro, de Valeurs Actuelles.
Qu'est-ce qu'on a ? Marianne.
Cinéma.
Alors, une œuvre magistrale, un chef-d'œuvre, un film de toute beauté.
Ça, c'est Cyril Hanouna, ce magazine.
De toute beauté.
Film de toute beauté.
Et qu'est-ce que ça vous inspire aussi, cette bande-annonce encadrée ? C'est la première fois qu'on a en fait une espèce de bandeau.
Moi, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça nous permet de nous rappeler du titre. Au cas où on l'oublie.
Parce qu'il y a le titre écrit en bas.
Il y a le titre écrit en haut et en bas, il y a la date.
Oh. Le 11 décembre au cinéma.
Ouais.
Ils auraient pu préciser 2019.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, du coup, si jamais tu regardes la bande-annonce dans 2 ans, bah, tu seras un peu perturbé.
Il faudra voir qui sort le 11.
En plus, le 11 sera pas un mercredi.
Si vous écoutez le 11 décembre 2021, n'allez pas au cinéma. Le film est déjà disponible en Blu-ray. Très probablement, vous pourrez le trouver près de chez vous. Et moi, j'ai l'impression que ça rogne les images du film, non ? Regardez la tête du mec là.
Non mais c'est parce que c'est pas filmé Terrence Malick. On y reviendra. Hein.
D'accord. Pour revenir à un truc que t'as dit Clément, t'as utilisé le mot pastoral et je l'ai cherché toute la matinée pour définir ce début de Béa. C'est très pastoral.
Oui, c'est très pastoral. On est dans les champs de blé. Qu'est-ce que ça vous inspire ce début ?
Alors ça commence sur des superbes montagnes.
Ouais. Alors donc, on est où d'ailleurs
que... Ah bah justement, ça doit être le Népal.
Je pense aussi, oui.
On dirait un plan à la Seigneur des Anneaux, je m'attendais à voir des orques débarquer.
Ouais, c'est
et
vrai
tout.
Qu'il est improbable.
Gandalf qui débarque en haut de la montagne.
Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bah, UGC, donc qui distribue le film. Alors ils nous font bien comprendre. Hein. UGC Distribution.
Orange Studio.
Ensuite, on a un fauchage de. Alors j'allais dire du blé, mais non, c'est pas du blé.
C'est
ça.
Des fleurs, non ?
Un fauchage de pissenlits.
Ah, je sais. Non.
En rythme.
Ah, de pissenlits, on y revient.
C'est une espèce de fausses herbes là qu'il y a partout en campagne.
Est-ce qu'on peut le dire en vrai, sinon les gens vont être perdus. Genre ce qui se passe vraiment dans le plan.
Je compte sur vous pour ça.
Alors. Donc, il faut savoir que ça se passe en 1930, je pense. Donc, la tondeuse à gazon n'est pas encore inventée.
Oui.
Ce qui explique c'est l'utilisation en fait de faux.
De faux.
Oui. Ça, on l'a appris en cours d'histoire en sixième.
Et quand on est en couple et qu'on fauche, il vaut mieux être en rythme, sans quoi tu fauches ton partenaire.
Et c'est
en fait.
Peut-être. Alors, attends, c'est peut-être parce qu'il est en train de faucher. Que plus tard, il va avoir des problèmes avec
peut-être
la justice.
Peut-être qu'il est fauché,
hein.
Alors il a besoin de blé.
Ouais, bah, en résumé, on voit, un couple qui fauche dans un champ,
oui.
Au pied d'une montagne, et on aperçoit au loin ce qui semble être une église, ou du moins une métairie.
Ou un mirador.
Et puis,
la magnifique montagne du début, encore en fond.
Qui est toujours là en fond, donc la montagne, à mon avis, a un rôle important. Et puis, on rappelle quand même qu'il était en sélection officielle à Cannes, à Toronto, oui. À Telluride et à Deauville.
Tout à fait, on a un petit
et alors,
carton.
Ils n'avaient pas assez de place, mais c'était aussi le festival du film d'Arcachon.
Oui.
Ce fauchage en rythme met bien l'accent sur l'harmonie de la vie dans la montagne, dont on rêve tous, bien sûr.
Ça a l'air chiant.
Et pour moi, on part tout de suite sur un truc qui va être hyper composé.
Ouais.
C'est-à-dire que les gestes ne sont absolument pas naturels de faucher comme ça en rythme, mais ça donne le ton.
Ah, tu penses ? Ouais.
De leur, pour moi, de leur idylle, là, tous les deux.
C'est vrai.
Non, moi, je pense que ça fait 20 ans qu'ils fauchent tous les jours. Il y a un moment, tu finis par synchroniser. C'est comme
les périodicités.
Et ça me rappelle Pocahontas, tu veux dire ? Dans Pocahontas, il fauche en rythme.
On remarque aussi qu'il respecte la distance de sécurité pour ne pas se faucher les jambes.
Absolument.
C'est plutôt sympa.
Un trait danger, deux traits sécurité. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Clémence, dans cette bande-annonce ? Clémence, c'est mon appui, Béa.
Alors ensuite, on a un dialogue qui commence avec « I had a dream ».
J'ai fait un rêve.
Et là, on s'attend à voir Martin Luther King débarquer, mais non, c'est notre héros autrichien. Qui dit, je le dis en français, je pensais qu'on bâtirait un nid là-haut. Je pensais qu'on bâtirait notre nid.
Et est-ce qu'on peut s'arrêter ?
Je pense que c'est un dialogue.
C'est une voix off.
Parce que Terence est quand même très fan de la voix off.
C'est la voix du héros, on est d'accord.
Oui, je suppose. Après, on le voit pas vraiment parler en fait dans la BA. Donc,
Il s'appelle comment cet acteur là ?
Il s'appelle Friedrich.
Auguste Dill, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Dill.
Alors, je pense pas que ça soit l'acteur parce qu'il parle en anglais et pas en autrichien.
Ouais, déjà, c'est un premier point.
Et que tu es naïf. Non, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette phrase ? J'ai fait un rêve. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase ? Parce que moi, ça me rappelle Martin Luther King.
Tout
à fait. Et on va parler d'un résistant dans le film. Et donc, est-ce que c'est pas très malin de commencer le film, enfin la BA par cette phrase-là, pour situer un peu le héros ?
Moi, je sais pas. Moi, je suis pas sûr que Terrence Malick soit du genre à faire. Je vais faire une référence à Martin Luther King. J'ai bafouillé. Je crois plutôt qu'il va faire. Enfin, il utilise le potentiel poétique du rêve. Donc, j'ai fait un rêve pour montrer que tout va être conirisme.
Enfin, pastoral, je pense, le récit. Le...
Ouais, moi, je pense que c'est plus une note d'intention qu'une référence après, peut-être. Hein.
Et pour moi, ça raccorde avec ce que je disais, le côté onirique de la relation. Idyllique qu'on va voir par
oui,
la
et
suite.
Oui, et des images, parce qu'il faut quand même le dire, qu'on aime ou pas Terrence Malick, on est quand même dès le début sur des images d'une beauté plastique, enfin, je trouve... assez sidérante.
Et en fait, est-ce qu'ils ne sont pas dans leur, ils sont pas dans leur petit coin de paradis par hasard
hein? Ils ont l'air d'être au milieu de nulle part.
Ouais.
Vraiment
ouais.
Dans
coincés entre deux montagnes. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire où ils sont vraiment maintenant qu'on a déliré sur le Népal?
C'est le Tyrol, non?
C'est en Autriche.
Ça doit être l'Autriche collée à la Suisse. Là, ça doit être les Alpes autrichiennes.
Tout à fait.
Donc le Tyrol.
Donc le Tyrol.
Donc ouais. Le Tyrol, absolument.
Tout à fait. Non mais tu vois en plus le côté j'ai fait un rêve et ils disent ensuite je pensais qu'on allait bâtir notre nid là-haut, c'est suivi par le plan avec le gamin, donc avec le bébé, donc je pense que c'est juste l'envie de famille et oui. Qu'il n'aura pas, je crois que le bébé n'existe pas.
Non, là t'es loin dans l'analyse quand même.
Tu penses?
Non je suis pas sûr, non parce qu'après on voit des plans avec des enfants qui ont grandi.
Ouais, honnêtement de la part de Malick ça m'étonnerait un peu.
Je n'ai rien dit.
Non la BA au contraire par la suite les plans suivants sont construits pour nous montrer la construction de la famille en accéléré en fait. On voit d'abord un bébé, ensuite d'abord on les voit tous les deux qui se chamaillent avec du foin. Donc c'est un peu le côté drague, on va bientôt baiser et faire des enfants.
Ah vous pensez
c'est
ça.
C'est la parade nuptiale des paysans, c'est connu.
Voilà.
Et du coup, est-ce que vous pensez que en termes de temporalité, on sera comment dans le film? Est-ce que ça va s'étendre sur une décennie ou alors ça va être quelques jours, quelques mois? Je trouve ça assez dur à dire.
Non, je pense que ça va être quelques jours, mais...
Ah bon, je pense pas. Parce que plus tard, on voit qu'il se fait arrêter et tout, on y viendra dans la bande-annonce, mais je pense que c'est un récit qui est plutôt long et qui sera pas forcément dans l'ordre chronologique.
Ouais, ouais justement, moi je pense que oui, c'est pas long, mais par contre, on va dire que la base en fait du film, ça va être l'arrestation et l'emprisonnement, et du coup, en fait, il va avoir des flashbacks de se rappeler de sa vie, quelle elle était, et peut-être du coup, comment il veut la retrouver, quoi. Peut-être que du coup, il y aura peut-être des aspects un peu...
C'est fort possible qu'il y ait des souvenirs.
Des souvenirs et peut-être des images rêvées, quoi.
Ensuite, on a donc un plan en moto. Donc, je pensais qu'on construirait notre nid là-haut et qu'on s'envolerait comme des oiseaux.
Alors, ils ont des motos, mais ils ont...
On dirait du Laurent Voulzy. Je pense que c'est l'inspiration principale.
J'ai
du
le
texte.
Cœur grenadine, c'est la phrase d'après. Non, je plaisante. Ensuite, on a. En fait, oui, c'est ce que tu disais, Clémence. On a des scènes joyeuses globalement, avec là une scène de danse en intérieur.
À un moment, on voit aussi des petits enfants qui courent dans les blés. On voit que leur tête qui dépasse.
C'est ça. On voit d'abord un bébé, ensuite les enfants qui courent.
Des enfants polissons.
Moi, c'est ce qui me laisse entendre aussi que ça va être un récit long parce que
ils grandissent.
C'est l'impression que j'ai. Peut-être que c'est pas du tout les mêmes enfants.
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui ressemble au paradis sur Terre et les plans de vie familiale. On est dans la maison, on se poursuit, on se chamaille.
Ils font vachement penser à The Tree of Life.
Oui.
Ouais, mais après, plan très, très malaisant d'un père qui dort avec ses enfants et qui les poursuit ensuite pour les ramener dans le lit.
Oui, mais c'est normal.
Mais ça, c'est une référence à Woody Allen.
Et à Polanski qu'on embrasse.
Très inspiré par Polanski.
Bisous, Romain.
Après, il y a un des enfants qui court. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, un petit blond aux cheveux longs. Qui court très bizarrement. Je ne dirais rien contre personne, mais je trouve qu'il court très bizarrement.
Voilà, ça justifie ma théorie.
C'est je trouve qu'il court comme Clément, parce que Clément court en canard.
C'est vrai, je cours comme ça, et d'ailleurs j'ai eu un petit rôle dans le non, pas du tout, mais il ne faut pas juger cet enfant blond qui court un peu comme un polio.
Comme un canard.
Un bouseux, bouseux des montagnes.
Mais voilà. Et ensuite, un regard vers le ciel.
Et puis un bruit d'avion.
Et pourquoi?
Parce que c'est le premier mercredi du mois.
Exactement.
Mais non, c'est un bruit d'avion parce que c'est la guerre
qui
débute.
J'ai pas compris la blague.
Non, tu sais, t'as la sirène.
Les sirènes,
les premiers mercredis du mois, ça sonne.
Ah oui, à midi, oui, c'est vrai, ça sonne. C'est pour dire que c'est mercredi. Mais non, pas du tout, c'est un bruit d'avion de guerre.
Tout à fait.
Parce que nous sommes dans les années 40. On sait pas exactement si on se base que sur la BA en quelle année.
Alors, ça
se
passe en 1938.
Merci, Johanna, de spoiler.
Donc, Hitler est au pouvoir depuis 2 ans.
Et le village s'appelle Saint-Radegund.
Mais on va peut-être revenir encore un peu après, je pense, sur l'histoire, en fait.
Oui,
je pense
c'est
qu'il faut un peu poser le contexte.
À noter d'ailleurs que Radegund était le premier titre du film. Ça a été longtemps le titre de travail. Il a été annoncé sous ce titre-là à Cannes avant que ça devienne une vie cachée.
Ouais, personne n'y serait allé.
Ah
Radegund,
oui, c'est le nom du village.
Ouais, c'est le nom du village.
C'est ça. Mais en tout cas, le premier tiers de cette bande-annonce, c'est vraiment la vie parfaite. Quoi.
C'est ça.
On est heureux, on a une famille, c'est l'harmonie.
D'ailleurs,
il y a des fêtes dans le village et tout.
Je pense que c'est un remake de Gladiator.
Oui.
Ils sont dans les champs.
Oui, par rapport aux jupes.
Ils sont dans les champs, ils touchent le blé, il a des enfants.
Et le mec après va finir dans une espèce de fight club autrichien, se foutre sur la gueule avec des tigres et tout.
Déjà rien que fight club autrichien, j'ai envie de voir ce film.
Ça donne envie de le voir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc on a, alors comment s'appelle ce personnage? On sait ou pas? Enfin, on le sait pas dans la BA parce que les personnages sont pas nommés.
Alors lui, il s'appelle Franz Jägerstätter.
Oui, et sa femme
Heidi.
C'est vrai?
Non. Attends, on le va regarder la distrib. Elle s'appelle Franziska Jägerstätter.
Ah, je voulais te dire Franziska Brel, ça m'a fait marrer.
C'est donc le personnage de Franziska qui regarde vers le ciel parce qu'il y a un bourdonnement qui évidemment représente la menace de la guerre imminente.
La Luftwaffe.
T'allais dire la menace fantôme?
Oui, et alors il y a un plan juste après où on voit de la fumée, donc du coup c'est pareil, il doit y avoir la guerre, du feu ou des explosions.
La guerre du
feu. On voit de la fumée dans le ciel.
Inspiré de faits réels.
Mais c'est plus un nuage en fait.
Et je sais pas si le plan, elle regarde le ciel, elle est hyper calme et pour moi ça montre un peu le côté la guerre c'est loin d'eux, ils sont dans leur trou paumé et ils voient juste les trucs de loin mais sans que ça les concerne.
Est-ce qu'ils justement c'est bien de soulever ça parce que finalement effectivement on est en 38, Hitler est au pouvoir et commence à faire un peu son empire,
comme on disait à l'époque.
Donc jusqu'à présent c'est vrai que les Autrichiens n'étaient pas trop concernés et en 38 en fait c'est l'Anschluss qui est
alors Clémence, peux-tu nous rappeler l'Anschluss?
Anschluss, c'est un terme allemand qui désigne le mot annexion ou raccrochement, raccordement.
Et donc c'est le moment où il décide...
En fait, c'est quand il décide d'annexer l'Autriche à l'Allemagne, effectivement. Et
raccordement, parce que souvent les techniciens France Télécom, ils viennent faire des Anschluss chez nous.
Notamment avec Linky.
Ah, j'en peux plus.
Non, mais
et
oui.
En fait, il se trouve que le chancelier autrichien, Kurt Schnuchning,
c'est son vrai nom, on n'est pas en train de trouver.
Je peux redire ça, s'il te plaît, que Kurt Schnuchning.
Appelons-le Kurt, ce sera plus simple.
Qui est très attaché à l'indépendance de son pays, a essayé d'organiser un référendum pour essayer de freiner un peu cette annexion. Donc il a fait appel à son peuple, il leur a demandé de voter oui ou non. Et au final, ce qu'on sait qui s'est passé, c'est que le peuple a voté oui, mais dans cette histoire en particulier...
Oui pour l'annexion ?
Oui.
D'accord.
Ouais.
Parce que en majorité. Hein, je vous le dis tout de suite.
En majorité. Et d'accord. En fait, l'histoire de notre ami... le petit autrichien
Franz.
Je me souviens plus son prénom, il va falloir que je retienne.
C'est Franz et Franziska, non c'est ça?
Ouais.
Donc
Franz est le seul de son petit village de
10 habitants, ils sont 10 hein,
c'est dur à retenir les mots
de Radegund
à avoir voté contre. D'accord. Voilà, et c'est pourquoi il est arrêté par les
nazis.
D'où
le début des problèmes.
C'est pour ça qu'après on voit donc la prison.
Après on pensait qu'il y a du temps qui a passé parce qu'il est peut-être pas arrêté dès 38. Enfin je pense pas. A priori.
Peut-être pas. Bah,
oui,
sais
peut-être
pas.
Que le film va développer une sorte de pression qui va être mise sur lui et le fait qu'il va encore plus affirmer sa position et finalement il est arrêté pour insubordination. Donc effectivement, on ne sait pas si c'est juste par rapport à son
vote. À son vote ou autre chose,
oui,
un
ou
acte de résistance.
Parce qu'il s'est fait remarquer de plus
peut-être
en plus.
Peut-être qu'après
quoi.
Il a refusé de collaborer justement avec.
Ouais, parce qu'à un moment, il y a une scène dans la bande-annonce où on voit que tout le monde fait des petites moustaches d'Hitler avec ses doigts et lui ne fait pas sa petite moustache d'Hitler.
C'est vrai. Enfin, en fait, il fait une moustache mais blonde. Oui. Et c'est là où on voit un peu le niveau de résistance du Gus, comme on disait en Autriche.
De France, tu veux dire.
Donc ensuite, on a un plan dans ce qui semble être la cour d'une prison ou...
Ça
a l'air d'être un
ou
fort de
l'enceinte d'un
défense.
Fort ou d'un château.
Il y en a pas mal quand même dans les Alpes, que ce soit côté français,
et
italien.
Et on a ce personnage de France qui disait « Je ne peux jurer fidélité à Hitler ».
En fait, il fait clairement son Karim Benzema, c'est-à-dire que tout le monde salue sauf lui.
C'est vrai.
Il chante pas l'hymne national.
Ouais.
Et d'ailleurs, comme Karim Benzema, il était... très bon au foot.
Mais c'est pareil, là, pour revenir encore à la composition du plan, c'est hyper intéressant parce que ils sont enfermés dans ce qui est une prison ou un camp de travail ou on sait pas trop.
En tout cas, une forteresse.
Et derrière, c'est l'espace absolu, le ciel, la montagne qui est hyper belle, qui contraste complètement avec le lieu où ils sont.
Et à gauche du cadre, on a un canon qui est pointé sur eux.
Ouais.
Et bon, voilà, tout l'aspect menaçant.
Ah là là, on sent les fans de Malik.
Non, mais
d'ailleurs, le héros a une veste verte de la même couleur que le fond pour rappeler son attachement à la nature. Oui, nous sommes exégètes.
Oui, jamais
absolument.
Il ne mettra un uniforme marron.
Tout à
nous
fait.
Sommes exégètes.
Une définition d'exégèse, Erwan, peut-être ?
Oui, tout à fait. C'est quand.
Merci, Erwan.
Plan suivant.
Juste pour faire remarquer qu'on voit un petit drapeau allemand. Donc je pense que ça ne se passe pas en 38 même, mais peut-être un peu plus tard. parce que du coup, ils ont déjà été...
Oui, c'est un drapeau nazi. Ouais.
Donc les Allemands sont déjà plantés et je pense que le référendum est passé.
Ensuite, un plan dans une cellule avec cette phrase. Tu crois que ta désobéissance changera le cours des choses? Eh bien oui, connard. Oui.
Alors lui, c'est
si je peux me permettre de te répondre.
Lui, c'est ce putain de mec qui est dans tous les films français et qui décourage les gens.
Mathias Schoenhardt.
C'est... On dirait que c'est lui, oui.
C'est lui.
C'est Mathias Schoenhardt, très bon acteur belge. Qu'on a vu dans quoi, Johanna, notamment?
Qu'on a vu dans
Bullhead. Oui, de
c'est
de
pas Story lui dans Alabama Monroe?
Non, mais il est dans un film qui a le nom d'un État américain.
Oui.
Et
Minnesota.
Ce n'est pas Hawaï. Voilà, vous irez voir sur Wikipédia.
Il joue pas dans Rien à déclarer aussi avec Benoît Poelvoorde, non?
Non.
C'est possible, ils sont compatriotes.
Et il est dans ce film chelou là, avec Reda Kateb où ils sont frères.
Oui, qui s'appelle Deux Frères. Non, pas
avec
du tout.
Avec les tigres.
Frères ennemis.
C'est, c'est les trois frères Origins.
Qu'est-ce qu'on a ensuite, les loulous, dans la suite de cette BA?
On a un entretien pression, quoi, comme on disait.
Je ne peux pas faire ce que je crois être mal, il dit.
Non, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la BA fait, comme dans les films de Malick, une voix off qui parle et qui déroule la psychologie du personnage. Mais en même temps, les images ne montrent pas la même chose. Les images montrent des choses beaucoup plus vives. Et
ça, c'est,
ça
typique, c'est assez typique de Malick, ce décalage entre la voix off et les images qui nous sont présentées. Même si là, il est dit, enfin, les différentes critiques qui ont vu le film disent que la voix off est beaucoup plus narrative que dans ses précédents films. Donc on va avoir quelque chose de plus explicatif peut-être, parce que ça a été reproché à Terrence Malick parfois d'être un peu abscon dans ses voix off. Ensuite on a des scènes...
Des scènes s'enchaînent d'arrestation.
D'arrestation, ouais. De prison, ça va un peu plus vite.
En fait c'est assez douloureux, d'un seul coup on a un gros contraste avec le début de la BA, parce qu'on est dans... La musique continue, hein, c'est toujours la même musique, mais là on est dans une violence soudaine, un côté très dramatique de la séparation d'avec sa femme, on les voit qui essayent de s'attraper et qui sont séparés. Et puis même les plans, je trouve qu'ils changent, parce qu'il y a des espèces de grands angles d'un seul coup qui font un peu comme s'il y avait une espèce de folie derrière tout ça, un truc où il est pas bien, quoi.
Après Malick c'est en grand en tank tout le
c'est
temps.
Souvent en grand tank, oui.
Mais je trouve ça sympa parce qu'en fait, il alterne souvent les plans, enfin en tout cas dans l'annonce, là, il alterne souvent les plans de montagne, de plein air et du coup de confinement.
D'enfermement,
et du coup, ouais, t'as vraiment ce contraste entre liberté,
égalité et fraternité.
Quand je disais grand angle, je voulais même dire grand angle où on le voit lui au premier plan, en fait. Ouais, lui un peu déformé.
En fait,
au
je pense
plan.
Que ouais, ce que tu cherches, c'est fisheye, c'est-à-dire vraiment l'effet bocal à poisson, quoi, aquarium sur l'image. Et c'est vrai qu'il peut être un peu étonnant, mais qu'on retrouve dans La Favorite notamment.
Terrence Malick utilise vachement ça.
Ouais, mais genre, autant déformé,
c'est rare, mais grand angle avec des personnages déformés au premier plan, il l'utilise énormément.
Ouais. Et Erwan, tu disais
Je disais que le film était tourné en GoPro.
Oui, absolument.
Merci
il a coûté très peu cher. Le plan d'après, on a de nouveau des critiques du film. Terrence Malick touche au sublime, selon le JDD, et notre Palme d'Or, selon
Le Figaro.
Oui, on va rappeler que le film était en compétition à Cannes et qu'il est reparti bredouille, comme on dit, en Autriche également.
On dit pretouille.
Pretouille. Oui. Qu'a-t-on ensuite dans cette BA?
Il y a une réplique voix off que vous n'avez pas soulignée, mais qui moi m'interpelle, c'est il faut résister au mal. C'est quand même assez absolu. Enfin, je veux dire, ok, on est face à Hitler et le nazisme, mais je trouve qu'il y a un côté très, encore une fois, comme si on l'avait fait descendre de son petit paradis et il est mis au défi par les forces du mal.
Bah, c'est manichéen, c'est Malick. Après, c'est religieux. Le mec, c'est clairement Jésus, quoi. Il est tiré du paradis pour être avec les hommes sur terre dans l'enfer, et puis après, il va essayer de s'extirper, quoi. Il va être condamné en plus pour la plèbe. Enfin, c'est Jésus, quoi.
Je suis pas trop d'accord avec toi, mais on en parlera.
Non, ensuite, une image qui semble être un tribunal.
Ouais, c'est
nazi.
Il a l'air d'avoir un uniforme militaire. Est-ce que ce serait pas un militaire autrichien?
Oui. Alors peut-être. Oui, le héros Franz. C'est vrai qu'on l'avait pas vu jusque là dans cette tenue.
C'est pas une tenue de prisonnier.
Est-ce que c'est
en fait
une tenue de prisonnier ou une tenue militaire?
Ça a l'air d'être une tenue de cérémonie. Alors quel type de cérémonie?
La mise à mort.
Après, c'est peut-être une tenue militaire autrichienne, et il a peut-être fait la Première Guerre mondiale et puis il est venu représenter son pays.
Peut-être
qu'il avait en fait pris sa retraite dans les montagnes.
Voilà, et moi je pensais même peut-être à un déserteur, non, je sais pas si ça évoque quelque chose, ou en tout cas quelqu'un qui aurait refusé, oui, de servir Hitler, parce que je pense que le service militaire devait pas être facultatif à l'époque. Donc il est jugé dans un tribunal, difficile d'en savoir plus, il n'y a pas de phrase à ce moment-là.
Oui, en fait à ce moment-là il y a une espèce d'élargissement au pays, qui dit en gros, qui remet en perspective notre pays va mal... quand on en arrive jusque-là, un peu comme on avait dans la BA de J'accuse, mine de rien, quand les choses sont en crise et tout, le mec remet en question, oui, les institutions, etc., et la violence de
mais
tout
ça. Je suis vraiment d'accord avec toi, je trouve que ça rappelle J'accuse par plein d'aspects.
Alors
l'aspect résistance aux institutions,
ouais. Mais la solitude du gars.
Le patriotisme aussi.
La grosse différence avec J'accuse, c'est que J'accuse, on est sur une histoire de persécution un peu injuste envers le peuple juif, et ça continue d'ailleurs dans les années 40. Là, on a plus l'impression que c'est un peu un combat patriotique.
Oui.
Ça veut dire c'est pas seulement son sentiment personnel envers ce petit moustachu qui arrive au pouvoir. Non, je pense que c'est vraiment le combat d'une patrie et qui se sent un peu esselé, peut-être.
Ça veut pas dire grand chose. Il ne reconnaît plus sa patrie, quoi. C'est ça, en fait, parce que le gars a voté contre une annexion que finalement les autres ont tous voté pour. Donc je pense qu'il se sent complètement seul dans son pays.
Ouais. Et surtout, il a l'air de se retrouver emprisonné à cause de ce choix, quoi.
Ouais.
Qu'il a fait.
Et d'ailleurs, après, on voit un espèce de mec, sûrement de son village, qui l'interpelle et qui lui dit « Tu es un traître.
Ouais. »
Donc voilà.
Tu trahis ta race.
Bah, en même temps, c'est vrai que du point de vue du villageois, il n'a pas respecté la démocratie, le mec. Hein. Moi, je comprends qu'il soit vénère.
Et surtout, moi, ce qui m'interpelle, bon, après, le film ne va pas parler de ça, mais les gens, comment ils savent que c'est lui le seul qui a voté contre? Bah, ils sont allés regarder dans les urnes.
Tu veux
genre,
dire que les votes n'étaient pas confidentiels?
Non, bah, je sais pas, c'est chelou quand même.
Et pour te répondre, déjà, dans le plan de la cour où tout le monde fait le salut nazi, il est le seul à pas le faire.
Ils font des petites moustaches d'Hitler avec les doigts.
Soyons précis.
Oui.
Ensuite, on a un plan où il a l'air de partir quelque part, il quitte sa femme. Moi, je pense qu'il part pour le front. Il y aura sûrement un aspect...
C'est peut-être un souvenir de la Première Guerre. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc sur la Première Guerre mondiale.
Tout ça n'est pas forcément chronologique.
Ouais.
Ou alors, il est facteur.
Ou alors, il est facteur. Mais pourquoi il faut jeter du pissenlit alors?
Et chaque matin,
chacun ses loisirs.
Après, vu comment il bécote sa meuf avant de partir, je pense qu'il n'est pas facteur. Sinon,
s'il fait ça chaque matin,
si tous les matins il l'embrasse comme ça, elle va avoir des lèvres, mais complètement.
J'y vais, chérie.
D'un point de vue purement pragmatique, si le mec a fait 14-18, il serait pas un peu vieux pour la guerre d'après?
Ça dépend à quel âge il a été
l'a
enrôlé.
Fait à 6 ans, ouais.
Moi, je lui donne une petite quarantaine. Si, tu sais, là-bas, à la Première Guerre mondiale, t'étais enrôlé dès 16 ans. Donc
ouais.
Ouais,
non, c'est possible, hein, je pense, en termes d'âge. Mais oui, on dirait en tout cas qu'il part pour un moment. Soit il va être emprisonné, soit il part à la guerre.
La théorie du facteur se tient. C'est vrai que c'est les montagnes. Les tournées doivent être assez longues.
J'avoue. En fait, c'est juste un film sur un postier.
C'est un périple quand tu vas livrer le courrier.
Alors là, plusieurs plans. Oula.
Oui, en fait, il y a la dernière partie de la bande-annonce qu'on entame à ce moment-là, qui est beaucoup plus accélérée, avec une succession de plans, l'apogée de la tragédie, quoi. Donc si vous voulez, je les ai notés.
Oui, vas-y.
Je vais vous les donner comme ça et vous commentez après si vous voulez.
Vas-y.
Ça vous rappellera des choses. Alors, apogée dramatique.
Qu'on peut appeler climax.
Titre.
Succession de plans forts, entrée subjective dans une prison, embrassade avec sa femme, gros câlin serré en plan serré. Main qui se caresse, purement malikien. Mais il y a trois mains.
Il y a trois mains, alors qui est
à
la troisième
qui sont
main
ses mains?
Bah, c'est
plan
papa,
intérieur
maman,
d'une chapelle. Est-ce un enterrement? Carnaval de gens masqués. Sa femme seule dans les blés, lui seul dans une cour. Câlin encore, main menottée levée vers le ciel. Tada.
Ok. Voilà.
Bah, c'est Gladiator.
Mais ouais, je pense que dans ce montage, il y a un mélange du début du film où c'était festif et de la fin.
Peut-être
gros
pour...
aspect pastoral aussi, encore une fois.
Ouais. Peut-être pour dire que quand il va être enfermé, forcément, il va se rappeler de sa vie, de ses souvenirs heureux, et que tout va se mélanger dans sa tête. On verra si on a une narration linéaire ou pas. Sachant que c'est Terrence Malick, ça m'étonnerait que ce soit...
Ah, je pense que ça va être bien éclaté. Mmh. Moi,
vous avez vu du coup le plan des gens masqués? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je ne comprends pas.
Je comprends pas non plus.
C'est le carnaval de Vienne.
Ouais. Exactement.
Ouais, vous allez dire que je suis bête, mais en vrai, j'ai fait pause sur la BA en essayant de voir si c'était des masques de juifs. Enfin, genre, si c'était genre la montée de l'antisémitisme en Autriche et tout.
Qu'est-ce que c'est un masque de juifs?
Non, pas de juifs, mais de caricatures de juifs comme à l'époque.
Enfin, ça va très très vite. C'est ça qui est un peu compliqué.
Ah ouais, c'est très dur.
Non, mais ça a l'air d'être des espèces de processions religieuses. C'est des fêtes un peu comme on pouvait retrouver un peu partout en Europe, notamment en Espagne, ce qui se fait toujours.
L'espèce de carnaval.
L'espèce de carnaval catholique.
C'est la fête du printemps.
Oui, on dirait.
Ouais,
ou moi, ça me rappelle un peu Midsommar.
Ouais, c'est vrai que les masques sont très glauques, en tout cas.
C'est un peu à la Wicker Man.
En fait, c'est une tradition népalaise. C'est la fête du slip.
la fameuse fête du slip.
Qui suit de près la fête de la saucisse d'ailleurs.
Tout ouais. à fait, c'est, oui, donc, c'est le lendemain.
Enchaînement de plans très rapide, enfin très rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'on avait jusque-là, parce qu'on avait une BA quand même avec un rythme. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme plan Clémence ?
Eh ben l'apparition de titre.
Ah oui, alors il y avait un. Juste avant, il y avait un plan de lui qui est menotté et qui lève les mains au ciel dans ce qui semble être la prison. Et avec cette phrase, quoi que tu fasses.
Où que tu sois.
Voilà, Jean-Jacques Goldman. Quoi que tu fasses, je reste avec toi pour toujours. Quelque chose de ce goût-là.
Tout à fait.
Donc un amour, ce que tu disais, absolu. De toute façon, Terrence Malick.
Oui, non, en fait, c'est juste qu'il va passer le film à faire en sorte que sa femme soit aussi emprisonnée. Comme ça, ils se retrouvent tous les deux.
Enfants.
Il l'accuse et tout. Mais si, elle a volé le truc là, je te jure.
Mais sans déconner, à un moment, quand on voit une scène dans une chapelle, je crois, j'ai pensé enterrement et je suis partie loin. Je me suis dit, ça se trouve, ses enfants ils crèvent et tout. Ouais.
C'est vrai qu'on peut un peu se faire des films parce que la bande-annonce est assez mystérieuse. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arrive à cette famille dans le film, à part lui, parce que lui, on le voit beaucoup dans la BA.
Ben, moi, ma théorie, c'est que déjà, le film sera pas linéaire en termes de chronologie. Donc ce Franz va se faire arrêter parce qu'il a voté contre l'annexion et du coup il va se remémorer des souvenirs et j'ai l'impression qu'il y aura une espèce de pression faite sur sa famille qui va se terminer de façon tragique.
C'est-à-dire ?
C'est ma théorie. Parce que tu sais, toute la fin, deuxième partie de la bande-annonce où on le traite de traître et où on lui dit qu'il ne peut pas abandonner sa famille comme ça, ça m'a donné le sentiment qu'on lui fait un petit chantage, genre soit tu es avec nous, soit il arrive des choses à ta famille. Et d'accord. Que lui, il va rester dans sa ligne directrice ou qu'il va être déchiré entre son amour pour sa famille et son amour pour sa patrie.
J'ai pas l'impression que la famille a l'air d'être trop... Enfin, en tout cas, dans les images de la bande-annonce, y a pas trop d'images de la famille qui est un peu embêtée par les autorités. Moi, je pense plus à du coup, ce fameux Franz qui va se retrouver en prison. Et donc, du coup, toutes les images... S'il n'y en a pas avant, en fait, toutes les images de la famille, on va les revoir en fait en mode souvenir. Et je pense qu'en fait, lui aura plus de contact avec eux. Et après, voilà,
c'est
je veux pas
va
vous...
être coupé de sa famille, c'est ça.
Ouais, puis finalement, il va être coupé de sa tête.
Bah, en fait, oui, c'est un peu flou, mais on sent quand même une importance psychologique de sa femme. Alors, est-ce que ils vont quand même avoir un contact d'une certaine manière et elle, on va la voir en même temps que lui est en prison ? Ou est-ce que c'est purement dans sa tête à lui et effectivement des souvenirs ? Mais en tout cas, elle a une place hyper importante, je pense, pour dans sa quête personnelle pour tenir et
j'ai
pour résister.
J'ai l'impression, j'ai peut-être rêvé, mais il y a pas un plan où qui donne l'impression qu'elle va le voir en prison et où ils se jettent dans les bras l'un de l'autre.
Si, ouais. À la Midnight Express.
Tout à fait.
Oui, donc si clairement ils avaient voulu s'en prendre à la famille, je pense pas qu'ils l'auraient laissé aller dans la prison.
Après,
sauf
c'est
si
peut-être
c'est encore
pas les
la
autorités,
théorie.
Hein, c'est peut-être que comme c'est un petit village, le fait que lui soit considéré comme un traître, peut-être que sa famille va prendre cher.
Ils vont peut-être ostraciser.
Ça confirme la théorie qu'il la balance et du coup elle le rejoint en prison.
Et ils font un enfant en prison et c'est magnifique.
Peut-être les gens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont plus de courrier.
Mais oui, parce que c'est le facteur du village.
Après, en fait, ils osent se plaindre que la poste est en retard, mais vous arrêtez le postier aussi.
Ouais, Hitler, il attendait un pli très important.
Oui, qui venait de cette montagne.
Oui, tout à fait.
C'est une histoire assez peu connue. Ouais. Est-ce qu'on fait un point biographique sur le gars ou est-ce que ça va trop spoiler ? Parce que moi, je sais comment ça termine.
Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ils sont autant à fond contre lui parce que ok il a voté contre mais de là à ce qu'il aille en prison ça veut dire qu'il a dû faire des actions donc contre le régime nazi
probablement pas montré
pour qu'il soit en prison ou alors ils mettent en prison les gens qui votent non mais là ils sont allés loin et je pense qu'au début ils n'allaient pas aussi loin tout de suite c'est venu progressivement donc je sais pas trop en fait pourquoi ils l'ont arrêté donc il a dû faire un truc.
Je suis absolument d'accord. Mais qu'a-t-il fait ? Et oui, pour répondre à ta question, Erwan s'est inspiré de faits réels.
Ah oui, non, mais c'est, oui, c'est un vrai gars.
C'est un vrai gars qui a vraiment existé.
C'était dit dans la BA, tu l'as pas bien regardé ?
Mais oui, mais non, c'est inspiré de faits réels. Mais moi, je les connais, ces films inspirés de faits réels où en fait, tu prends une personne un peu. Voilà.
Non, là, c'est son vrai nom.
Et
voilà, ça.
Là, je suis sur la. Si je regarde sa biographie, ça annule notre théorie de Première Guerre mondiale. Il est né en 1907, le gars. Donc ça veut dire qu'il aurait fait la guerre à 7 ans.
Eh ben, ils sont motivés, les Autrichiens.
Il n'y avait pas d'âge à l'époque.
Oui, donc pas de Première Guerre mondiale, d'accord.
Après, est-ce que le film suit scrupuleusement l'histoire ? Je ne sais pas. Mais
après, on connaît Malick, il a tendance à digresser en cours de route.
Il y a peut-être des dinosaures dans le film, hein, on ne sait pas. Hein.
Peut-être, des cellules, des bactéries. Et ensuite, on va terminer la BA. Donc, écrit et réalisé par Terrence Malick. C'est vrai que ça n'avait pas été dit jusque-là.
Oui, d'ailleurs, ça c'est à noter vraiment, parce que quand j'ai vu pour la première fois cette BA au ciné, ayant un a priori plutôt négatif sur Malick, ce n'est pas anodin. Disons que la oui. BA a commencé. J'ai regardé la BA sans absolument pas savoir qui c'était et j'étais à fond dedans. Et il se trouve que quand ça apparaît à la fin, je me suis dit « Ah ouais, d'accord, bon, bah, j'ai envie d'aller voir le prochain Malick contre toute attente. »
Et on a peut-être...
Bah, je pense, je trouve que ça sent que c'est lui quand même. Hein.
Oui.
Quand même
ah, pas forcément.
Quand, oui, quand, ouais, quand tu connais, connais son cinéma,
c'est vrai que
dès le premier plan,
ouais.
tu te doutes après, que c'est après, c'est lui. Peut-être ouais. une stratégie de la part du diffuseur ou de la prod pour justement faire exactement ce que tu as vécu, Clémence. Parce que ces deux, trois derniers films n'ont pas été très bien reçus, il faut quand même le dire. Et c'est vrai que si on avait dit dès le début un film de Terrence Malick, les gens ont fait « Ah, ça va être chiant, il va y avoir des champs de blé, des montagnes. » Et là, il y a d'abord des champs de blé ouais. et ensuite Terrence Malick.
Ouais, mais même au-delà de ça, même avant ses derniers films, c'est un cinéaste qui divise quand même parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est de la branlette et d'autres qui sont touchés par son cinéma. Donc, de toute façon, si tu commences en disant c'est Terrence Malick, tout de suite ça part en débat.
Ça, oui,
vois.
C'est clivant.
Ouais. Mais donc ça termine quand même sur son nom et les champs de blé.
Et les champs de,
les champs de blé,
blé
on n'a rien
à voir. Des ou sexe machina.
C'est Steadicam pour te rappeler que c'est Terrence Malick, tu vois.
Et après, c'est fini. Et okay, donc j'ai okay. noté dans toute cette BA, on a 5 beaux plans de blé.
Oui.
Magnifique.
Quand même. Parce que sans blé, on n'a pas de pain.
Et sans pain, on n'a pas de sandwich.
On n'a pas de sandwich.
Et sans sandwich, on ne fait pas de goûter.
Et on ne casse pas des œufs.
Exactement, ouais. on ne casse pas la croûte. Ouais. Ok, alors autour de la table, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette BA ? Est-ce que ça vous hype ? Ça vous donne envie ? Vous avez envie de vous précipiter dans les salles pour braver la grève et la grêle ? Ou pas trop ? On va commencer Johanna.
Alors, moi je suis une grande fan de Terrence Malick. J'ai été énormément touchée par le film The Tree of Life, que j'ai pas du tout trouvé un télo, contrairement à ce que beaucoup disent. Pour moi, c'est tout l'inverse de ça. C'est soit tu c'est sensitif au fait, soit tu le ressens, soit tu le ressens pas, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Et moi, ça m'avait touchée. Ensuite, dans ses films suivants, j'avais été surprise qu'il réutilise ces mêmes procédés. C'est-à-dire, il n'y a pas de narration, tout ça. Je pensais que ça allait être spécifique qu'à ce film-là, mais il a réutilisé après. Donc j'avoue que j'ai un peu décroché. Je n'ai pas vu Song to Song, par exemple. Enfin, si, je l'ai vu, je ne sais plus non. lequel j'ai vu. Je ne l'ai pas vu.
Parce qu'on est colocataire, donc on peut le dire ouais. aux gens, tu n'as pas vu Song to Song.
Et peut-être que je l'ai vu pendant que tu dormais. Qu'est-ce que tu
en sais ? Peut-être,
on n'a pas envie de savoir.
Et sur ça, j'ai l'impression qu'il revient à la synthèse de ce que j'aime, c'est-à-dire la narration qu'il y avait dans La Balade sauvage, et cette façon de filmer qu'il y a dans The Tree of Life, qui est hyper poétique et qui met en valeur les paysages et la beauté esthétique. Donc ça me donne envie.
Ok. Clémence, ton avis sur la BA ?
Ben, c'est une BA qui me donne très envie, et complètement indépendamment du fait que c'est Malick, finalement, c'est plutôt une bonne surprise de voir que ça me donne envie alors que c'est lui. Parce que je ne peux pas dire finalement que je déteste Terrence Malick comme je l'ai toujours dit depuis des années. Parce que je viens juste de me rendre compte que je n'ai vu que Tree of Life, donc en fait je déteste Tree of Life. Sûrement pour les raisons que tu dis, Johanna, c'est que ça ne m'a pas touchée et que je me suis sentie piégée dans ce film. Wow. Mais là, du coup, j'aimerais aussi beaucoup voir ses films précédents parce qu'il y a peut-être des similitudes, mais quand je vois cette BA, ça ne me raconte pas du tout le même genre de film que Tree of Life. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus narratif et qu'en même temps, c'est beau et que c'est une esthétique qui me touche, donc ça me donne très envie. Ouais.
Kevin, une vie cachée.
Alors moi je déteste Terrence Malick. Bonjour, enchanté.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle
Kevin. J'en ai vu plusieurs et j'aime pas.
Et je déteste mais pas lui personnellement, il est sûrement très gentil cet homme-là, hein, je le connais pas. Non, j'aime pas son cinéma même si j'aime beaucoup Badlands donc en français c'est
La Balade Sauvage
que je trouve super bien, La Ligne Rouge c'est cool aussi, mais après la plupart enfin les autres films que j'ai vus de lui, j'aime pas quoi. Mais bon, c'est une question de style, j'imagine qu'on en parlera après, et là en voyant la BA, bah j'ai envie de le voir. Parce que je sais pas, j'ai, comme tu dis, je retrouve un truc de Badlands. Je sais pas quoi exactement, mais il y a une espèce de vibe qui me fait penser plus à ses débuts, même si dans le style c'est très voilà, Malick maintenant. Et je me dis qu'il a peut-être trouvé enfin l'équilibre qui pourrait me reconquérir.
Et je vous pose la question à tous les deux avec Clémence, est-ce que c'est le fait que ce soit plus narratif qui vous donne plus envie, ou est-ce que c'est aussi esthétique ?
La musique, en fait, j'ai oublié de dire ça, mais la musique de cette bande-annonce, elle est incroyable. Et à chaque fois que je la vois, j'ai eu 15 fois ce matin, j'ai les yeux comme des étoiles.
Elle va devenir fan de Terrence Malick.
Elle a déjà acheté les soundtracks là-bas.
Franchement, la musique est bouleversante.
Et bah, je sais pas, j'ai juste l'impression que les personnages sont des personnages.
D'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Tu veux dire que l'acteur ne joue pas son propre rôle.
Non, mais tu vois, je veux dire qu'ils existent, quoi. Enfin, t'y crois. Et je trouve que Malick, après, on accroche pas. Il y a quand même des fois où les personnages sont pas des personnages fonction, mais des personnages plus allégoriques qui ne sont pas vraiment des humains. Enfin,
ils
ne
sont pas incarnés.
Voilà, ils ne sont pas incarnés. Et moi, ça me gêne un peu. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas.
Et toi, Erwan, ton avis sur cette BA ?
Alors, cette BA me donne très envie de découvrir le Tyrol. ses paysages, sa vie locale, ses magnifiques bâtisses. Non, c'est pas du tout mon style de film. Enfin, ça a pas l'air d'être mon style de film. A priori, le style de Malick n'a pas l'air d'être mon style non plus. Ça a l'air très long, très chiant, puissant, mais dans les émotions, tout ça, des choses que j'ai du mal en fait à.
Tu veux en parler ?
C'est vrai que dans Camping 2, on a assez peu d'actes de résistance.
Ouais, et puis les émotions sont quand même.
Si, à un moment, il refuse d'aller à la piscine.
Ouais.
Oui. Et pas de n'importe quelle manière, mais c'était mieux amené, je pense. Mais bon, on en reparlera plus tard. Là, on parle pas de chef-d'œuvre, on parle de vie cachée. Hein.
Un film commercial.
Voilà, c'est du petit cinéma, c'est du cinéma grand public, moi, ça ne m'intéresse pas.
Ok, donc pas trop à y péter, un peu le seul.
Un peu, parce que les images ont l'air jolies et tout, mais c'est pas. Et l'histoire a l'air. Moi, c'est. La Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une période que j'apprécie.
C'est très bizarre dit comme ça. Moi, tout ce qui est Autriche en 39, j'adore, hein, personnellement.
Non, mais c'est ça, c'est vrai que le petit moustachu, c'était un personnage avec beaucoup de facettes.
Facétieux.
Mais, non, c'est intéressant et l'histoire a l'air intéressante, mais c'est vrai que le style de. Comment, je sais pas comment.
Le lyrisme un peu, non, qui te.
Ouais, voilà, le côté un peu I Had a Dream, avec des plans super lents sur des montagnes, tout ça. J'attendrai qu'il sorte sur Arte, quoi.
Ah ok, tu vas carrément pas y aller, quoi.
Non, c'est ça. Bien sûr que si, car j'ai une carte UGC limitée.
Est-ce que dans le match retour, tu vas conseiller ce film à l'office du tourisme de Radegund ?
Tout à fait.
Moi, pour donner mon avis, je vais me ranger aussi du côté team enjaillé, parce que ça y est, je prépare déjà les teams pour le match retour.
Tu sais pas.
Mais peut-être qu'il sera plus en grève, Romain.
Oui, tout à fait,
imagine,
Romain.
Ça se trouve, on va tous, enfin nous, on va aimer et ceux qui aiment pas, et vous allez détester.
C'est possible, hein, c'est possible.
Ce serait génial.
ça me hype de ouf. Bon, de toute façon, dès qu'il y a un film de Terrence Malick, je suis comme un fou, même s'il annonce un film sur une sauterelle. J'ai envie de le voir. C'est mon réalisateur préféré, je ne m'en cache pas. Donc dès qu'il y a un film de lui, ça me hype. Après, moi, du coup, c'est l'effet un peu inverse de vous. J'ai peur que ça soit un poil classique pour du Malick et que ça soit très le biopic de guerre. Mais je lui fais confiance quand même. Et puis, j'apprécie qu'il ait pris des acteurs non stars parce que c'est vrai que c'était devenu. Il avait tendance un peu à prendre vraiment les grosses stars US du moment. Ben Affleck, Natalie Portman, Kate Blanchett.
Attends, là, il y a Mathias Schoner,
Et là, ça contribue peut-être à ce que tu disais, Kevin. J'ai l'impression que ça renforce le côté personnage qui existe. C'est qu'on les connaît moins, faut dire ce qui est. Et du coup, ça m'intéresse et j'ai envie de voir avec cette petite crainte du classicisme.
Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles classicisme ?
Dans le côté, la grande fresque avec la grande histoire d'amour pendant la guerre, on a déjà vu ça assez souvent, mais fait par lui.
C'est le Nouveau Monde, c'est un peu ça aussi.
Ouais. Oui, non, mais totalement. C'est pas mon préféré d'ailleurs.
T'as vu La Balade Sauvage ou pas ?
Oui.
Eh ben, ça te fait pas penser à La Balade Sauvage plutôt.
Ouais,
c'est un peu ça,
pas tellement, parce que La Balade Sauvage, c'était un amour toxique quand même.
Mais
c'était
pas classique. Enfin, ça avait rien de classique.
Non, mais rien que le titre La Balade Sauvage, c'est déjà un reportage sur Arte, quoi.
Détrompe-toi, c'est une histoire à la Bonnie and Clyde.
Ouais, avec Martin Sheen.
Assez badass.
Et c'est ouf ce film. Ouais.
Je préfère Charlie Sheen.
Et Carrie, comment elle s'appelle ?
Sissi Spacek.
Sissi Spacek, Sissi Mouillé.
Donc autour de la table, assez.
elle est passée comme ça.
Mais jetez-le par la fenêtre.
J'ai pas entendu.
Sissi Spacek, Sissi Mouillé.
Waouh. Romain, je vois ce que tu ressens maintenant. donc une table assez hypée par ce film. On se fera une idée. Je vais pas dire dès la semaine prochaine parce qu'on malheureusement on attendra un peu pour faire le match retour de ce film. Ça va patienter un peu. Je vous dirai pourquoi à la fin de cet épisode. Donc oui, on va faire un petit jeu autour de Terrence Malick. C'est pas souvent qu'on peut jouer avec lui. Il est pas très jouasse comme réalisateur. Donc chacun d'entre vous a donné trois mots qui, selon lui, évoquent Terrence Malick et son cinéma. Et donc, je vais vous dire les trois mots de chacun et vous allez devoir retrouver qui les a prononcés. Et puis, la personne s'expliquera sur pourquoi ce choix de mots. Enfin, je ne sais pas si c'était clair.
On a compris.
On a tout d'abord coup d'un soir, okay. Forme et temps.
Coup d'un soir, ça fait trois mots déjà.
Oui, mais là, on va considérer que ça fait un.
C'est coup d'un soir, mais en langage SMS.
Coup d'un soir, forme et temps.
Coup d'un soir, forme et temps. Selon qui ? TEMPS.
Moi, je pense que c'est Clémence, parce que coup d'un soir, c'est une espèce de jeu de mots pour dire qu'elle a vu qu'un film de lui. Et donc, coup d'un soir.
Clémence.
Oui, tu as deviné.
C'est parce qu'on est colocataire, je la connais trop bien.
Ce sont les trois mots donnés par Clémence. Alors, pourquoi ce choix de mots ?
Ben oui, en fait, coup d'un soir, c'est plus par rapport à mon vécu malikien. Effectivement, je me suis rendu compte que j'avais vu que Tree of Life, donc c'était un peu un coup d'un soir,
one shot.
Un peu raté. Du coup, pour le coup, c'est pour ça que j'ai pas un bon souvenir et que j'ai pas un bon avis sur ce réal et qu'il faudrait que je le connaisse mieux et que je lui donne une seconde
chance.
Mais
Clémence, il est un peu vieux pour un coup d'un soir.
Il y a pas d'âge.
Ah, mais il était long ce coup. Hein.
Il a plus trop la forme.
Ah, j'ai été prise au piège.
Pourquoi forme et temps?
Alors forme, parce qu'en fait je trouve que son cinéma, enfin c'est l'impression que j'en ai en fait, vu que j'ai pas vraiment vu, mais j'ai l'impression qu'il met plus qu'il met plus l'accent sur la forme que sur le fond, justement dans le sens où c'est pas toujours hyper narratif, mais que c'est plus sensoriel et qu'il déstructure un peu ses intrigues et qu'il joue avec les différentes couches de narration, voix off, images, etc. Voilà, je trouve que vraiment il joue avec la forme.
Et temps.
Et tant, bah parce qu'en fait, c'est des films... ce qui me frustre énormément, c'est que j'ai envie de voir La Ligne Rouge depuis un long moment et
oui,
qu'il dure longtemps.
Mais
il dure longtemps. Il dure
2h50. Oui.
Et donc voilà, c'est aussi des films qui, je pense, demandent d'être posés et de prendre le temps. Et pour le coup, quand j'ai vu Tree of Life au ciné, j'ai vraiment senti ce temps passer.
Ah, tu l'as vu au cinéma, ok.
Oui, je l'ai vu au cinéma. Et voilà, je trouve que c'est des films qui donnent un rapport au temps aussi.
Est-ce
un peu
que
particulier.
T'avais pris un petit ster.
Oui, il faut fumer.
Non,
qui a dit ça ?
Non.
Nous avons ensuite Pissenlit, Chuchotement et Branlette. Selon
ah, c'est Kevin.
C'est Kevin.
C'est Kevin.
Si ça parle de Branlette,
facile.
Kevin.
Alors,
je vais
trop
vous expliquer
facile.
En fait pour vos auditeurs. Kevin s'est mis à sourire dès le premier mot, donc on a tout de suite
et
deviné.
Et comme il a dit tout à l'heure, il le déteste, donc
ouais,
c'était facile.
C'est, moi, c'est vraiment le mot Branlette qui m'a mis sur la
beaucoup
piste.
Beaucoup trop virulent et grossier.
C'est parce qu'à chaque fois qu'on en parle hors antenne, je reviens toujours sur la scène du pissenlit de Nouveau Monde. Mais en fait, je crois que je l'ai un peu fantasmé. Je suis pas sûr que c'était un pissenlit, mais bon, bref, c'est l'effet que ça me faisait. Il y avait un plan sur une plante avec le soleil qui se lève derrière, bah, plan très malikien quoi, et des chuchotements, voilà, et c'est un peu l'image que j'ai du cinéma de Malick. Si je devais le résumer en une image, je mettrais un pissenlit, le soleil derrière.
Et pourquoi Branlette?
Et quelqu'un qui chuchote.
Et quelqu'un qui chuchote.
Pourquoi
et
Branlette,
Branlette parce que j'ai envie de provoquer un peu, parce que ça me fait rire. Moi je trouve que c'est un mec, et quand je dis Branlette, c'est pas forcément négatif, parce que moi j'aime bien le cinéma Branlette, justement.
Bah
j'aime
ouais, bien aimé Midsommar.
J'aime bien ceux qui se.
Oh, les ça attaque.
Oh donc
ça attaque.
La Branlette.
On transforme ce podcast en un vaste.
Mais la Branlette
de
est subjective, les amis.
Mais... Non, mais non, mais il a dit Branlette positive. Pour moi, c'est de la Branlette positive.
Mais elle a pas tort, j'aime bien les.
C'est un formaliste, on va dire.
Ouais, j'aime bien les cinéastes qui se regardent filmer, c'est un truc que j'aime bien. Mais après, lui, j'aime pas son style. Alors, pourquoi j'aime pas son style, je saurais pas vous dire exactement. J'ai l'impression quand même que c'est de la pose, tu vois. Et ça me gêne un peu. Parce que souvent, moi, me oui, mais c'est de la poésie, t'aimes pas la poésie, bisous Romain, je fais une référence à toi.
C'est faux. Tu adores la poésie, Kevin, d'ailleurs tu as plein de
d'ailleurs
d'albums,
tu aimes
de
le métal.
D'ailleurs j'aime le métal. Non mais la poésie, c'est pas genre parce que tu fais de la poésie que c'est de la bonne poésie, tu vois. Moi je pense qu'il y a quand même d'autres cinéastes poètes qui ont des styles que j'aime beaucoup. Je citerai Cocteau, je citerai Jodorowsky par exemple, Buñuel aussi, et c'est de la poésie quand même, mais c'est pas du Malick. C'est-à-dire que moi il a quand même un style qui fait qu'il se regarde filmer, certes, mais en plus une espèce de pause et d'autosatisfaction, je trouve, et après c'est mon ressenti, que je trouve un peu gênante, parce que j'ai l'impression que ça n'arrive et ça n'aboutit pas à quelque chose d'intéressant, ou en tout cas qui me touche personnellement. Après, okay. Je conçois que ça touche les gens.
Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on continue sur les mots ou est-ce qu'on répond ?
Bah réponds, on sent que tu as envie de répondre.
Oui, je te sentais aussi partante pour répondre. Non, alors bah, pour moi, bon, comme je l'ai dit, c'est mon réalisateur préféré. Je n'ai pas l'impression du tout que ce soit poseur, en fait, un cinéma poseur. Moi, ce que j'appelle poseur, c'est Tarantino, par exemple, c'est-à-dire des zooms, des effets de caméra, des effets de montage et tout ça. Et en fait, je trouve que Malick, c'est l'antithèse de ça. C'est quelqu'un qui, pour moi, est d'une sincérité qui me bouleverse. Et voilà, après c'est quelqu'un d'aussi cérébral, il faut pas oublier qu'il est professeur de philosophie à côté, et il met ses questionnements dans ses films, Et moi, je sens pas la branlette, je sens pas la pause, je sens pas un gars qui se regarde filmer, je sens un mec qui essaye de retranscrire par le cinéma d'autres formes d'art, comme la poésie, comme peut-être la philosophie. Et moi, je pense qu'il est d'une sincérité totale. Voilà, après...
ouais, mais tu vois, c'est du ressenti.
Encore. Surtout qu'il refuse d'apparaître en public. Enfin, c'est pas quelqu'un qui joue sur son nom. C'est écrit dans son contrat qu'il est interdit de le prendre en photo dans les festivals, sur les tournages et tout ça. Il est absolument coupé du monde. Donc voilà, je sens pas... comment dire, une fabrication chez lui. Après, je peux peut-être...
je viens d'avoir une révélation. PNL, ils se sont inspirés de lui.
Il crée la rareté, exactement.
Il a créé la rareté, le mec.
Si on continue
attends, je me rebondis juste. Si je peux revenir juste sur ce que tu as dit. Moi, je comprends tout à fait. C'est vraiment une question de ressenti, en fait. Et en revanche, même si j'aime pas ce qu'il fait, il y a plein de plans de certains de ses films que je trouve incroyables, notamment moi je déteste Le Nouveau Monde, son Pocahontas avec Colin Farrell, mais dedans il y a une séquence qui est une de mes séquences préférées du cinéma, c'est la séquence de famine dans le camp où tu arrives dans un camp tout boueux, enfin où ça devient extrêmement sinistre et c'est tourné de manière vraiment c'est magistral quoi. Mais après, voilà, pour moi, c'est que des coups de cœur ponctuels dans ce film.
Ouais.
C'est des fulgurances.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Moi, je tiens juste à dire que Colin Farrell dans le rôle de Pocahontas, ça me donne envie.
Ah bah oui, tu devrais le voir, il est incroyable. Pour moi, c'est son meilleur rôle.
Si on continue avec les mots, poésie, mouvement et émoi.
Bah ça, du coup, c'est toi.
C'est toi.
Ça, c'est toi.
Mais t'as déjà utilisé ton temps de parole.
C'est Johanna.
C'est Johanna, effectivement. Pourquoi poésie, mouvement et émoi, Johanna?
Poésie, parce que c'est un peu une blague entre colocs. C'est qu'on s'imagine à chaque fois que, depuis The Tree of Life, que Malik arrive chez un producteur avec un poème et il dit « c'est mon prochain film » et le gars fait « j'achète ».
Et tu sais quoi, t'es pas loin de la vérité parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont tourné avec lui qui disent qu'il n'y a pas de scénario, notamment dans ses 2-3 derniers films, et qu'ils reçoivent des espèces de séquences avec le contexte et des mots, des phrases, mais pas de dialogue, pas d'histoire en fait.
Ah, mais c'est exactement comment Romain prépare ses podcasts.
Exactement. C'est marrant,
ça. Ils savent pas les mots.
Et ensuite, tu as dit mouvement et moi.
Ouais, et poésie aussi, parce que je suis très sensible à la poésie qu'il y a dans ses films. Même si on disait que c'est quelqu'un d'intellectuel et moi, pour moi, faut pas vivre ces derniers films de façon cérébrale, sinon on passe à côté de quelque chose. Voilà.
Et mouvement et moi?
Ben, mouvement à cause de ses mouvements de caméra, tout simplement. Ouais. Donc là, ça fait plusieurs films qu'il utilise le même chef opérateur, qui est Clément, dis-le.
Emmanuel Loubetsky,
parce que tu l'aimes.
Mais qui n'est pas le chef-op de ce film-là.
Qui n'est pas le chef-op d'Une vie cachée. Et donc, c'est son steadicammer habituel, ouais, qui est passé chef-op.
C'est ça.
Et au fait, pour moi, le style Malick, c'est aussi cette façon de filmer qu'il a trouvé avec Loubetsky et qui est très typé et qui fait les films de Malick. Enfin, qui fait un peu son
peut-être
sa touch moderne.
Peut-être expliquer ce qu'est le steadicam pour nos auditeurs.
Alors, c'est une... comment dire, ce sont des bras articulés. C'est un gilet sur lequel il y a un bras articulé, sur lequel on pose une caméra et qui permet de faire des mouvements rapides de façon fluide
sans
et stabilisée.
Tremble, voilà.
Sans que la caméra tremble. Donc, qui permet de faire souvent des séquences de course dans les blockbusters.
Tout en se déplaçant avec la caméra.
Exactement.
C'est ça, exactement. Et donc, Malick l'utilise de façon très lente, justement. Donc, contrairement aux blockbusters où c'est pour des scènes de course-poursuite à pied ou des trucs comme ça. Enfin,
ou en voiture.
Ou en voiture.
Ou en moto.
C'est
ou en bateau.
Ou en hélicoptère.
Ou en hélicoptère.
Et là, il utilise de façon assez lente pour suivre souvent des personnages de dos avec des objectifs grand angle. Et ça fait vraiment son style où on voit les personnages au premier plan et la nature
dans
en très
décors,
gros plan derrière.
Immense, ouais,
dans des décors. Donc voilà, pour moi, c'est le style Malick. Enfin, le style moderne, récent Malick, on va dire.
Alors ensuite, on a Intuition, Arbre et Sacré.
Il y a Romain ou pas dans le tas?
Il n'y a pas. Attends, est-ce qu'il m'a envoyé ces mots?
Non, c'est toi alors.
Bien joué.
Effectivement, c'est moi. Détective. Je regardais s'il m'a envoyé ces mots.
J'ai expliqué mon troisième mot ou pas?
Non, mais
pardon,
mouvement et plus émoi, ça ne fait pas branlette?
Non,
émoi.
Pour moi, émoi, c'est vraiment au sens émotion sensuelle. Quoi. Ça rejoint ce que je disais sur le ressenti. Voilà,
ça
te fait
bander, quoi.
C'est ça, j'ai la petite gougoute à chaque fois.
Émotion sensuelle, c'est marrant. Une chanson de Francky Vincent.
Ben là, je te rejoins, Johanna, parce que moi, intuition, c'était par rapport à ça aussi. C'est-à-dire, c'est à la fois comment il filme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va, par exemple, prévoir une journée de tournage avec Ben Affleck et puis décider que finalement c'est mieux de filmer un oiseau parce qu'il y a un oiseau à ce moment-là qui est là. Et c'est aussi comment il faut prendre ses films, c'est-à-dire avec beaucoup de... Enfin, intuitivement, sans forcément passer par l'intellectuel. J'avais mis Arbre par rapport à The Tree of Life parce que c'est mon film préféré, je lâche le mot. Et Sacré parce que c'est quelqu'un qui est fasciné par le sacré plus que par la religion, je pense, parce que je pense pas qu'il soit catholique ou qu'il ait une religion affirmée, mais c'est quelqu'un qui est fasciné par la dimension sacrée, notamment de la nature, et ça a l'air encore très présent dans ce nouveau film. Et ensuite, on a trois autres mots. C'est qui Malik ? qui est l'auteur de ces mots selon vous?
Qui se dénonce maintenant?
Erwan, dénonce-toi.
Ou se taise à jamais.
Erwan,
ouais,
pourquoi
c'est
ce choix de mots?
Parce que, un peu comme la dernière fois que je suis venu avec vous pour Polanski, en fait, je suis allé voir sa filmographie pour me dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce réalisateur que j'ai sûrement déjà vu dans plusieurs films. En fait, non. Quand j'ai vu tous ces titres, j'ai eu La Balade sauvage, Les moissons du ciel, La ligne rouge, Le nouveau monde, je me suis dit ah ouais, c'est Charles Baudelaire en fait.
Et est-ce que t'as vu sa photo ou pas?
Ouais, c'est
Que j'allais dire on fait un jeu et essaie de deviner à quoi il ressemble.
Oui, il apparaît très peu en public.
Moi, je pensais que c'était un rebeu la première fois que j'ai entendu son nom, le genre Terrence
ouais,
Malick.
Ouais, c'est ça.
Et
en fait,
là,
non, c'est un sosie raté de Bill Murray, donc mais enfin raté, je dis raté, mais
c'est peut-être
Bill Murray qui est raté.
Voilà. Donc, je n'ai vu aucun de ses films parce que bon, moi, dès que je vois un titre aussi poétique, ça me rappelle mon année de première en français et ça me rappelle le bac. Ça peut...
C'est
donc, de toute façon, si ça parle pas de camping,
oui, oui, oui.
Bah, si, ils vivent dans des champs.
Ils pourraient camper là dans cette
Il pourrait camper et je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de plantante.
Mais après, qu'on aime Malik ou pas et qu'on se dise que c'est de la branlette ou pas, il y a un truc qui est certain, c'est que c'est quand même pas grand public réellement. C'est quand même un level.
Ouais,
ah,
mais
oui.
D'un autre côté, Terrence Malick, c'est quand même un nom que je connaissais. Enfin,
ouais.
Ça reste quand même un réalisateur un peu à la Tarantino. Tous ces réalisateurs, en fait, qui sont... Même Polanski, en fait, qu'on leur style et qu'on... Enfin, quand tu vois un film, tu te dis c'est un Malick ou ouais. C'est un Tarantino.
Ah, mais là où un Tarantino, éventuellement, tes parents peuvent y avoir initié ou t'as des gens autour de
c'est
toi.
Ça,
je trouve que Malick, c'est moins accessible. En vrai, c'est moins facile d'aller voir un Malick pour la première fois.
Ouais. Moi, clairement, je pense que j'aurais pas fait d'école de cinéma, je serais passé à côté de ce réal. Parce que j'ai découvert qu'il existait à l'école de cinéma.
Oui, non, moi, mes parents, c'était plus Scary Movie.
Après, l'image un peu inaccessible, c'est récent, c'est sur les 5-6 dernières années, parce que c'est vrai qu'il a enchaîné les films un peu expérimentaux. Au début de sa carrière, il faisait quand même des films avec une histoire. La Balade sauvage,
ouais.
Ça suit très bien.
Ouais.
Hein, c'est,
et surtout, pour ceux qui connaissent pas Malick, il a sorti un premier film qui est La Balade sauvage, et ensuite, il a mis combien 17 ans ?
Non, après, il a fait Les moissons du ciel, je crois, assez rapidement. C'est le seul que j'ai pas vu, donc je peux pas trop en parler, mais je sais que c'est avec Richard Gere, donc c'est assez improbable. Et après, il a fait La Ligne Rouge, et c'est après qu'il a eu une période longue, il me semble, si je dis pas de bêtises. La Ligne Rouge, c'est un film de guerre. Bon, c'est vrai que c'est un peu contemplatif, mais ça se suit aussi. En fait, c'est à partir de The Tree of Life où il a vraiment commencé à déconstruire le récit, et où c'est effectivement plus art et essai, on va dire.
Ouais, je sais pas, question éducation ciné, mes parents m'auront plus parlé de La Leçon de piano que de La Ligne Rouge, par exemple. Alors que... C'est peut-être le même genre de film, enfin c'est pas la même réal, mais c'est
alors,
le même genre.
C'est
du coup, il a fait La Balade sauvage en 73, Les moissons du ciel en 78, et ensuite on le retrouve qu'en 98 avec
d'accord.
La ligne rouge.
Donc 20 ans entre Les moissons du ciel.
Et il avait fait énormément parler de lui à la base pour ça, parce que c'était le réalisateur qui se faisait rare, et c'est vrai que ces dernières années il a enchaîné les films.
Il a enchaîné les films et c'est toujours quelqu'un qui prend du temps à faire ses montages. Il faut dire qu'Une vie cachée, ça a été tourné en 2016. Donc c'est quelqu'un qui prend 2-3 ans à terminer ses films.
En même temps, il y a un moment, il a mis 20 ans à tourner un film.
Ouais.
Donc
là, 3 ans,
sur
c'est
une moyenne haute.
Ouais, il est rapide. Là. Et il a annoncé son prochain film, d'ailleurs, sur la vie de Jésus-Christ. Donc,
un autre grand homme.
Oui.
Ah bah tiens.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Jésus
c'est
le
ça m'étonne.
C'est pas
tiens.
Trop étonnant, oui, effectivement, quand on le connaît. D'accord, bah, écoutez, c'était... Je sais pas si on peut dire que c'était intéressant.
C'était là.
C'est à nous de le dire,
c'est
ça.
Expérimental et sensoriel.
Après, juste pour finir sur l'histoire de la bande-annonce et le fait qu'ils annoncent vachement les prix et les critiques, c'est que c'est un réalisateur aussi qui systématiquement, avec ses films, gagne quand même des prix.
Pas systématiquement, mais
récemment, enfin,
il a eu la Palme d'Or pour The Tree of Life, il avait eu l'Ours d'Or pour
les billets
pour la ligne rouge.
Pour la ligne rouge, et je crois que c'est tout. Il a jamais eu d'Oscar, par exemple. Une vie cachée, donc c'est le titre de ce film de Terrence Malick. Vous me voyez venir avec mon lancement.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait trouver?
Si, on peut trouver mieux.
Pour ce film. Kevin, je te sens, mais alors, bouillant sur le titre.
J'ai trois titres. Alors, j'avais un tic provoque, c'était Voyage au bout de l'ennui, mais c'est parce que je suis méchant.
Oh, ça, c'est méchant. En plus, c'est Chimino.
Mais ouais.
Non, c'est Céline.
C'était Céline.
C'est Voyage au bout de l'enfer. Là.
Après, okay. J'ai deux titres bien. Voilà. Bon, maintenant, je fais les titres bien. J'ai Le Militaire, M-I-L-I-T-E-2-R-E, parce que la Terre, tu vois. Et là j'ai
un
le
peu un titre à la Christophe Maé.
Et là j'ai, je pense, mon chef-d'œuvre. Oui. C'est Le Bon à Rien, c'est-à-dire Le Bon à Rien, à rien comme un à rien. Parce que c'est un gentil à rien, lui. Il veut
c'est
pas être avec Hitler.
Le Bon à Rien.
Mais il est pas vraiment à rien parce qu'il est pas vraiment blond aux yeux bleus.
Oh, bah,
écoute, Erwan, ça va.
Hitler non plus.
J'aime la précision.
Et donc voilà.
Le Bon à Rien. D'accord, ça me fait rire.
Ouais,
Clémence, des titres peut-être.
Ah oui, j'ai trois titres. Alors,
vas-y.
Je sais pas si c'est génial.
Bah non, on te dira.
Alors, j'ai Une vie gâchée.
Ah, et... oh. Attends, c'est vachement
c'est un
bien,
peu
ça.
Facile, mais ça colle bien. Mais alors là, c'est vraiment par rapport à l'affiche, parce que je sais pas si vous voyez comment elle est, l'affiche. Ils sont
donc
tous les deux allongés par terre dans l'herbe.
Il lui fait un petit bisou sur le cri.
C'est L'amour est dans le pré.
Ah putain. J'avoue, c'est drôle.
Et enfin, le dernier nul, mais il me fait rire, c'est Hitler, t'auras pas mon blé.
Alors ça peut être la catchphrase.
C'est pas mal. La catchphrase.
Moi, je dis gros niveau de Clémence, ça va être dur de faire mieux. Johanna, est-ce qu'on a des titres?
Absolument pas. Mais
pas
pour
de
la
titre.
Blague, Jäger Mister, voilà.
Jäger Mister, d'accord, pour nos amis alcooliques. Erwan, des titres?
Alors moi, j'avais pas trop d'inspiration, donc je me suis dit... comment réfléchirait un des plus grands. Donc je me suis mis dans la tête de Bruno.
C'est vrai.
Et du coup, j'ai trouvé plein de titres. Alors j'ai eu Une vie gâchée. Donc Clément, ça nous
Attends, ça c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive, je crois.
Une vie gâchée parce qu'il va en prison. Après, alors les explications
sont
très
brunettes. Faut pas faire ça.
Juste dire le titre.
Non, mais si, parce que Bruno, il explique tout le temps et c'est ça qui est beau. Okay. Une vie mâchée parce que la bouffe de prison, elle est pas très facile à avaler.
Oh bordel, j'en peux plus.
Une vie lâchée.
Que... tout va être comme ça en fait.
Okay. Plus ou moins.
C'est vrai que c'est très brunoesque.
Attends, est-ce qu'il y a une vie tachée parce qu'il s'est fait une tache d'herbe?
Ah, j'avais pas pensé. Okay, j'ai pas eu
temps. Je te le propose.
J'aurais dû l'appeler. Et une vie bâchée parce que pendant son absence, il va falloir protéger les bûches de bois.
Il a été victime de bashing aussi.
Et aussi
une vie bâchée. Alors Romain qui fait grève mais nous a quand même fait parvenir un pigeon voyageur avec ses titres. Le ciel, les oiseaux et Hitler.
Ah, c'est génial. Okay.
Ça c'est pas une deuxième catchphrase.
Franchement, il y a du level. Vous me mettez dans la merde là. Non, Adolphe, non. Ça, je comprends pas.
C'est pour.
Faut mettre le ton.
Non, Adolphe, non.
9999.
Ah, d'accord, c'est une blague nazie, je l'ai pas. Jésus versus Hitler. Okay.
Ah, tu vois, lui aussi, il l'a ressenti.
Quand la RATP n'existait pas encore. Alors là, on est carrément hors sujet, Romain. Permets-moi de te dire. Et ta mère, la grève. Ok, donc là, on dérive.
On en a gros.
Non, mais attends, t'es sûr que c'est les titres que tu lis ou c'est votre conversation?
Non, c'est. Il y a même des majuscules, donc je suis sûr que c'est les titres. Alors, on va retenir le ciel, les oiseaux et Hitler. Ok, Clémence, tes deux titres. Ok, qu'est-ce qu'on choisit, les amis?
C'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis.
Moi, j'aime bien. Ça dépendra aussi de l'affiche, j'avoue. Mais si on a cette affiche avec ce visuel-là, l'amour est dans le pré, c'est quand même.
Non,
Johanna,
non,
pas...
je trouve qu'une vie gâchée, c'est bien.
Une vie gâchée.
Et après, on casse quelque part le bon à rien.
Une vie gâchée.
Bon, de toute façon, il faut la catchphrase de.
Moi, j'aime
de
bien.
Oui, la catchphrase, on est d'accord.
Hitler, t'auras pas mon blé.
Hitler, t'auras pas mon blé.
Prenez ça en catchphrase.
Un bon à rien. Hitler, t'auras pas mon blé.
Parce
pas.
Que ça reste dans la
Après,
thématique.
Bon à rien.
Mais non, mais c'est bien si tu l'écris un bon à rien.
Oui, oui. Ouais, mais du coup,
bon
les vrais bons à rien.
C'est ça.
C'est un peu contre
sens. C'est ça qui me dérange. C'est
mauvais à
rien. C'est un bon nazi.
Ouais.
Non, mais c'est parce que lui, c'est un arrière gentil.
Pas à avoir ce débat.
Okay. Eh, c'est mieux qu'une vie cachée.
Bon, alors, il est où pour
vraiment
pour ce genre
deux
de débat.
Pour
les... éviter toute polémique, je vais trancher dans le tas. On va dire l'amour est dans le pré. Et
Hitler,
t'auras pas mon blé. Donc tu fais full, full aux as.
Ah, bon, j'aurais pris une vie gâchée, mais bon.
Mais oui, mais c'est elle bon. Est trop facile, une vie gâchée.
Je vois que tu n'es pas très courageux face à l'opprobre.
Oui, non, mais vous allez voir, on va prendre l'affiche où ils sont allongés, ça va beaucoup.
Non, mais ça, franchement, l'amour est dans le pré, ça va bien marcher avec l'image.
Non, mais vraiment, en tout cas, je tiens à vous féliciter. Il y avait du gros level de titre ce soir.
Vraiment, hein.
Et vous m'avez mis dans un embarras totalement. embarrassant.
Ça se voit. Tu as l'air très embarrassé.
Eh bien, je vous propose que l'on passe au match retour de La Famille Adams que nous sommes allés voir cette semaine en salle. DJ,
ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul !
Match retour de La Famille Adams que nous sommes allés voir en salle, bravant les grèves, les intempéries et
les enfants.
Et la fermeture du GC Léal.
La fermeture du GC Léal, exactement. Alors, La Famille Adams, eh bien pour l'histoire, imaginez, eh bien, comme on n'a pas écouté en fait le dernier épisode qu'on a fait nous-mêmes, puisqu'il n'y a que Romain en fait, hein, qui écoute ce podcast, on va passer sur l'histoire imaginée. En gros, si je me rappelle bien, c'était assez fidèle au final à ce qu'il y a dans le film. On avait juste un questionnement sur pourquoi mercredi, la jeune fille de La Famille Adams est obligée d'aller à l'école normale avec des gens normaux. Et on va avoir une réponse à ce questionnement grâce à l'un de nos chroniqueurs qui va nous résumer le vrai résumé de ce film, La Famille Adams. Et je vais demander à Kevin de nous résumer ce film tout de suite. De quoi ça parle ?
Alors, ça parle de La Famille Adams qui, en gros, déménage suite à, on va dire, l'interruption du mariage de Gomez et de sa femme, dont j'ai oublié le nom, ça y est,
Morticia,
par des villageois très en colère parce que les Adams, ils sont chelous. Et du coup, ils déménagent dans une belle bâtisse sur flanc de montagne, toujours entourée de brume. Et voilà qu'un jour, la brume disparaît. Ils se rendent compte qu'en bas, il y a une ville rose bonbon qui est presque gérée par Valérie D'Amido, qui, en gros, est une décoratrice d'intérieur qui fait tout un lotissement pour sa grande émission finale et qui veut relooker et virer les Adams parce que ça gâche un peu la vue et c'est un peu nul. En parallèle, il y a aussi la bar mitzvah qui s'appelle pas comme ça du fils Adams, la mazurka qui doit avoir lieu et c'est quand même une trame assez importante dans le film parce que il doit réussir sa mazurka sinon il sera pas accepté comme un Adams. Et en parallèle de ça, il y a bien sûr Mercredi qui s'est fait des amis dans la ville rose, qui n'est pas Toulouse.
Toulouse.
Et qui va essayer par tous les moyens possibles de faire chier ses parents et en particulier sa mère en mettant des barrettes roses, etc. Et voilà quoi.
Et ça finit enfin, bien.
Et ça finit bien.
Et ça finit bien, comme d'habitude.
Il réussit sa mazurka.
Oui, de manière alternative.
Oh. Oui, alors bon, oui. On va spoiler, hein, voilà. Bon, vous êtes prévenus maintenant si vous nous écoutez depuis longtemps. Dans les matchs retour, ça spoil allègrement. Alors, il n'y a pas d'énormes révélations dans le film, mais on va parler de la fin notamment. Oui, bah, c'est ça, totalement ça. C'est parfaitement résumé. Et on va passer maintenant, pour savoir si vous avez trouvé la BA fidèle au film, au Douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Le douille ou pas douille, c'est notre rubrique préférée, celle où l'on compare la bande-annonce de l'épisode précédent au film que nous sommes allés voir en salle. Alors, on va faire encore un petit tour de table. Notez que Johanna, tu n'as pas pu voir La Famille Adams.
Oui, je mets une douille RATP.
Douille RATP, oui, à cause des grèves notamment. Clémence, douille ou pas douille, cette Famille Adams ?
Douille positive.
Ah, le retour de la douille positive.
Oui, parce que la BA laissait entrevoir un film pour enfants un peu... qui me donnait pas super envie, en fait. je sais pas quoi. J'adore La Famille Adams, mais en fait, j'avais l'impression que ça allait raconter complètement Mercredi qui arrive au collège et qui vit avec d'autres collégiens et que ça allait se réduire à ça. Et or, ce n'est pas que ça. Et le film, je trouve, a en plus une vraie richesse autour de l'imagerie Famille Adams et met en perspective notre monde à nous par rapport à eux. Et c'est super, j'ai bien aimé.
Kevin, le douille ou pas douille ?
Bah écoute, douille plutôt positive également, parce que moi, à la suite de la BA, moi je m'attendais à rien en fait. Vraiment.
Le
je
bon
suis...
à rien.
J'étais sûr d'aller voir un film OSEF, et en fait, c'est un film qui avait des choses à dire et qui était vraiment pas con, et qui en plus était agréable à regarder esthétiquement, donc c'était cool.
Erwan, ton avis sur ce film ?
Moi je mettrais 6 sur l'échelle de la douille. Petite douille, donc pareil,
ah, quand
petite
même.
Douille positive.
Ah, positive.
et là, c'est vraiment ce que je disais, Clémence, c'est que vraiment, en fait, en regardant la bande-annonce, on a l'impression que ça est très centré sur Mercredi et toute son histoire. En fait, moi, j'avais l'impression que j'allais voir un dessin animé, teen movie, qui se passe pratiquement qu'au collège. Et en fait, pas du tout. En fait, on ne voyait pas du tout arriver toutes les intrigues sur Bugsley, du coup. Et aussi Valédamido d'ailleurs, que je sais plus si on la voit dans la bande annonce, je crois pas, hein.
Si, on, si, l'aperçoit.
On l'aperçoit, on voit
que c'est, ouais, la méchante,
mais... Et en fait, il y a plusieurs intrigues qui n'étaient pas du tout référencées dans la bande annonce, et du coup j'ai trouvé ça assez surprenant. Et aussi du coup le message derrière le film, parce qu'il y a un vrai message, et je l'ai
parler.
Trouvé j'ai trouvé assez cool.
Absolument, ben, je vous rejoins en tout point sur tout ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça très fidèle, en fait, enfin oui, fidèle à la BA quand même, parce qu'on retrouve l'esprit qu'il y avait dans cette BA, très cynique, macabre, etc. Mais c'est vrai que je la trouvais un poil racoleuse, et au final le film l'est pas tant que ça, et c'est un film de petit malin, je trouve. C'est-à-dire que ça attire les gens en salle sur une base un peu de teen movie, ce que tu disais, Erwan, et en fait ça dit quelque chose de l'Amérique qui est pas très subtil, mais qui a le mérite d'exister dans un film d'animation. Donc je rejoins. Oui, pas que de l'Amérique. Je vous rejoins. Pour moi, je dirais pas douille ou douille positive. Et on va attaquer tout de suite vos avis sur le film. Je sais pas qui veut se lancer. Clémence, vas-y, donne-nous ton avis sur La Famille Addams.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. T'as complètement raison. Je trouve que c'est un film de malin. En fait, il a vraiment une finesse dans ses gags, dans ses références, dans le message qu'il véhicule, et je trouve qu'il a même une certaine acidité. Moi, j'y ai vu un énorme truc contre Disney, en vrai, pas que, mais par exemple, la ville toute rose, pour moi, c'est tellement une ville Disney, mais c'est le parc Disney, vraiment. Ou alors ces petits villages qui sont construits là près de Marne-la-Vallée sur le modèle maison Disney et tout, ça existe en vrai, ça, en banlieue.
J'ai vécu, c'est ça, ouais.
Non, non, mais ils font des maisons là-bas,
elles sont pas roses, mais t'as des places avec des grandes colonnes, ouais. Enfin, t'as l'impression d'être dans un village créé pour un film.
C'est tout propre, tout beau, tout coloré. Et de même qu'il y a une scène qui m'a trop marquée, mais justement, c'était d'une finesse. Moi, j'ai lu ça, c'est peut-être pas ça, mais j'y ai vu un truc, c'est quand le cousin machin arrive en voiture, c'est très mystérieux, on sait pas que ça va être cousin machin, on voit pas son corps, mais on voit ses mains. Et en fait, dans mon souvenir, il avait pas de main, cousin machin, traditionnellement, dans la famille Addams.
Pour résumer, le cousin machin, c'est le gros truc poilu,
c'est le truc poilu
avec
des
lunettes.
C'est l'espèce de truc poilu qui parle pas
forcément
ses
mains.
Et en fait, là, il a des mains, et on commence par voir juste ses mains qui sont des gants, des mains gantées, et ce sont clairement les mains de Mickey, mais clairement.
Ah,
vous regarderez.
J'avais pas du tout
pensé. Ce sont les gants de Mickey, et en fait, tu vois ce gant qui tient une canne avec un pommeau en rubis, avec une bague trop
taulier,
bling
quoi.
Bling
c'est
et tout, le gars qui a de la thune, quoi. Et il arrive sur la musique gangsta et tout. Et moi, mais sur le moment, je croyais vraiment que ça allait être Mickey qui allait sonner à leur manoir. Et là, tu découvres que c'est cousin machin. Et ça m'a fait délirer. Je me suis dit, waouh, c'est d'une finesse ce truc, si c'est ça. Et clairement, les enfants vont pas le comprendre, mais je trouve que c'est intelligent, quoi. Il y a un truc un peu pointu, quoi. Voilà. Et donc, j'ai trouvé le film très bien dans son histoire. Après, il y a peut-être un petit souci quand même de positionnement, parce que l'histoire reste assez enfantine malgré tout. Enfin, j'ai senti, un peu comme pour La Reine des Neiges, que j'étais pas complètement la cible, et en même temps, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que quand j'ai vu La Reine des Neiges. Mais en même temps, j'ai senti que les gamins qui étaient dans la salle en même temps que moi s'ennuyaient aussi à certains moments, parce qu'il y avait un côté trop adulte dans les références. Donc je pense qu'il est vraiment entre deux. Je sais pas si ça
cible,
sera un succès.
C'est une cible ado ou pré-ado, je pense.
Ouais.
Comme les personnages.
Oui, d'ailleurs, les problématiques, celle de Mercredi avec sa mère, et même de sa copine avec la mère méchante, c'est carrément des problématiques ados, en fait.
Non, c'est pas du tout un film pour enfants de bas âge. Enfin,
voilà.
Parce que dans la salle où je l'ai vu, il y avait quand même pas mal de petits-enfants. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment destiné aux petits-enfants, plus aux grands-enfants.
Mais ceci dit, ce qui pouvait être intéressant en le destinant aux enfants, je sais pas, juste avant la préadolescence, à partir de 8-9 ans, c'est que malgré tout, je trouve ça super intéressant de leur montrer un film avec des messages comme ça qui critiquent un peu leur propre pratique, parce que c'est très jeune maintenant que les gamins sont sur leurs écrans, sont à fond dans cet univers très coloré. À un moment, il y a des gamins qui chantent à la Kids United, quoi. Ça, c'est vraiment une référence enfantine.
Et donc, puis, il y a quand même le personnage de Pugsley qui, je trouve, se rapproche d'une intrigue enfantine.
Oui.
C'est le gars qui fait plein de bêtises, il est tout le temps en train de manipuler des explosifs et tout. Et lui, son arc est quand même plus proche du récit initiatique que peut avoir un enfant.
Et de même que le personnage de Oncle Fétide, je trouve, est un comique très enfantin.
De gag, ouais.
C'est un Sid dans L'Âge de glace. Ouais. D'ailleurs, c'est le même doubleur français, je crois.
Même
c'est Chomsky. qui le double.
Bah écoute, c'est pas lui qui fait Sid dans L'Âge de glace ?
Je crois pas.
Parce que je savais pas que c'était Chomsky.
Ouais, c'est parce
mais,
que les deux autres, quoi.
Il me semble que
je trouvais que c'était la même voix.
Que c'est Antoine. Ouais.
Mais ouais. tu parlais de l'oncle fétide. Et en fait, là, je rebondis sur le côté. C'est aussi pour les grands-enfants parce qu'il y a clairement des blagues qui sont très très limites. Oui. Et c'est bien parce que les enfants n'auront jamais la référence, enfin avant qu'ils aient un certain âge. Mmh. Et quand ils parlent de pas pouvoir s'approcher des écoles, il y a aussi un moment un mec qui dit ah vous m'avez vu même quand je m'isole, sous-entendu je m'isole tout seul pour
oui,
faire
y a,
des.
Il y a des blagues un peu pédophiles. Dès le début, Morticia qui se maquille avec
les cendres de ses parents. Ouais. Ça c'est marquant.
En fait, le film commence comme ça, tu fais ah oui ça va être ce level là d'humour, d'accord. Okay. Et en fait non, après ça devient un peu plus enfantin.
Ah oui, mais clairement l'imagerie Famille Adams, elle est jouée à fond dès le début. J'ai adoré l'ouverture qui passe par Morticia et sa présentation à elle, et tout le long je trouve que c'est tenu vraiment leur esprit Famille Adams et les personnages sont ultra attachants.
Totalement. Voilà. Kevin, ton avis sur ce film ?
Eh bien écoute, avis similaire, et puis je rebondis d'ailleurs sur ce que dit Clémence sur le positionnement, parce que c'est peut-être, si j'avais un petit défaut à donner, c'est peut-être celui-là, dans le sens où effectivement t'as quand même une intrigue qui est plutôt destinée aux gosses, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'elle est construite comme si le public principal était des enfants, alors que finalement le fond, est-ce que ça raconte, c'est pas tellement pour les gosses. C'est sur l'anticonformisme,
sur Trump
aussi, sur plein de choses en fait, sur les réseaux sociaux, sur une espèce de politique de l'apparence et sur justement vouloir à tout prix ressembler aux autres pour se sentir accepté, alors que finalement tu peux très bien assumer ta différence et t'entendre avec les gens. Le fait que ce soit destiné aux enfants dans sa narration, c'est pas non plus une mauvaise chose, parce que je trouve ça chouette et même sain pour des gamins de voir des films comme ça qui leur disent écoute, là on n'est pas dans du film classique qui va te faire voilà la belle aventure, la belle morale à la fin. Là, on te donne un truc qui est quand même un petit peu... ça fait des petits doigts d'honneur de temps en temps.
C'est corrosif, ouais.
C'est corrosif. Des fois, t'as l'impression de voir des petits doigts d'honneur qui apparaissent comme ça, genre tiens, Disney. Parce que franchement, tout le long du film, t'as l'impression que c'est un peu Disney, tiens. Mais,
vous avez vachement senti ce truc sur Disney. C'est
ouf. Mais je trouve qu'il y a quand même... c'est assez subtil, mais il y a quand même des petits tacles, quoi. Et mais c'est intéressant parce que du coup moi je crois que pour les gamins c'est aussi important d'avoir ce point de vue là surtout quand t'es gamin ou pré-ado, tu veux ressembler aux gens parce que tu veux être accepté, tu veux te sentir dans une communauté, sinon tu as l'impression d'être ostracisé et de pas avoir le droit d'exister finalement. Et là ils te disent le contraire, non, tu peux assumer qui tu es, tu peux assumer ta différence
et te mélanger quand même
aux gens, c'est-à-dire que tu peux avoir une vie sociale, avoir des amis en étant différent, et c'est pas grave. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et puis le film reste quand même assez agréable à regarder, l'humour est vraiment chouette, il y a quand même des blagues qui sont super efficaces,
hyper drôle.
Le moment où t'as le j'oublie son nom, mais le monstre de Frankenstein qui se met à chanter
ça m'a tué. Alors, ça... faut expliquer si tu peux expliquer un peu la scène.
J'ai entendu parler de cette scène,
parce
qu'en
fait le monstre de Frankenstein qui est le majordome, quoi. Il parle toujours super lentement.
C'est un gros monstre.
Et en fait, tout le long du film, il joue du piano parce qu'il est très. Enfin, c'est un musicien, quoi. Ouais. Et puis à un moment, tu le vois au piano qui fait. Il se racle la gorge et puis il se met à chanter la chanson, comment elle s'appelle,
Everybody Hurts.
Everybody Hurts. Mais avec la voix super haut perché et tout, et trop bien. Et c'est trop marrant. Et puis l'intelligence, c'est que ça dure pas des plombes.
Ouais, contrairement à La Reine des Neiges 2,
par exemple,
ou...
si on devait comparer l'humour des deux, c'est que là ça dure c'est très ponctuel, ça te fait rire et après on passe à autre chose, tu vois.
Mais
ça,
la musique
c'est
reste utilisée dans l'art créatif.
Et tu sens que c'est quand même les réals de Sausage Party, quoi.
À des moments, ouais. C'est quand même, faut quand même expliquer pour les gens qui s'attendent à avoir un film à la Sausage Party, c'est quand même beaucoup moins subversif. Il y a pas de blagues de sexe, enfin assez peu. C'est vraiment Famille Adams, dans le sens où vous allez retrouver l'humour macabre de cette famille, et je trouve un sous-texte politique qui n'y avait peut-être pas forcément avant. Qui avait par contre dans Sausage Party à fond, quoi, parce que tout était une métaphore de quelque chose dans Sausage Party, et cet aspect là y est, mais peut-être moins l'aspect très blague de cul, très potache et tout ça. Erwan, ton avis sur ce film?
Je crois que tout a été plus ou moins dit. Non, c'est surtout moi, je voulais centrer sur le personnage de Gomez, qui déjà s'est doublé par Kev Adams, enfin un acteur
chevronné,
acteur,
quoi. Ouais.
Chevronné, avec qui je peux me...
Alors oui, vous l'avez vu en français, vous, tous les trois.
Ouais, on l'a vu en français, ouais.
Oui.
Non, mais en fait, au final, on l'entend, on le Enfin, moi, on m'aurait pas dit c'est Cab Adams, je l'aurais pas reconnu, quoi.
Ok.
Bon, il a une espèce d'accent bizarre, alors c'est entre le polonais et l'italien.
Je suis pas d'accord, je trouve que c'est celui qui dénote dans le casting VF, parce qu'il a une voix beaucoup trop juvénile pour Gomez, je trouve. Ouais, ça fait bizarre.
Moi, je l'ai vu en VO, et c'est Oscar Isaac, donc c'est vrai que c'est pas le même registre d'acteur, quoi.
Après, c'est pas choquant, parce que ça reste des dessins animés, donc on a toujours des voix un peu juvéniles, un peu perchées. Mais en fait, sur le personnage en lui-même, en fait, c'est le seul personnage qui est heureux du début à la fin. Qui pas un seul moment en fait qui voit du positif partout, et en fait c'est limite un des personnages les plus étranges, il fait partie des personnages les plus étranges, et je trouve que tout ce film c'est un peu une ode à la joie, c'est cultiver votre différence et aimez-vous comme vous êtes, et en fait voilà, lui fait ce qu'il veut, et d'ailleurs c'est tout l'arc sur la relation père-fils avec la mazurka.
La mazurka. Ah, est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est peut-être
En fait la mazurka c'est un rite d'initiation au passage
à l'âge adulte.
Et en fait c'est une chorégraphie
avec
un sabre super compliqué et super complexe qui dure jusqu'à 4 heures. Bref, c'est un truc complètement impossible à faire, et donc lui il a réussi, tout le monde l'a réussi dans sa famille sauf le fameux cousin dont personne n'a entendu parler.
C'est une des blagues du film.
Voilà, et en fait Bugsley n'y arrive pas,
doit réussir,
il n'y arrive pas, lui son truc c'est explosif, et en fait il y a tout un switch à la fin sur
une petite morale quand même.
Ouais,
tu peux pas le faire comme tout le monde, fais-le à ta sauce, quoi.
Il dit exactement, j'étais trop attaché aux traditions, il faut que je t'accepte comme tu es. Et du coup lui, il finit par faire une mazurka avec des explosifs, et il s'en sort avec brio.
En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs petites morales comme ça, très bienveillantes. Et en même temps, je trouve que là où le film est fin en plus, c'est qu'il fait quand même remarquer qu'on n'est pas que dans le manichéisme. Là où on s'imagine que la ville toute rose, où tout le monde doit être conforme et tout le monde doit être identique, est ce qui est dénoncé. À un moment, t'as quand même Mercredi, qui est un peu l'ado de la famille, qui fait remarquer elle-même que dans sa famille, on lui demande d'être comme les gens de sa famille.
D'être
qui retourne le truc, il dit en fait c'est pareil à la maison.
Le conformisme est des deux
côtés.
J'ai
bien aimé ça.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de méchant vraiment dans ce film, parce qu'en fait, il y a une méchante, mais qui finalement termine en fait, c'est juste que tout le monde. Le message, c'est que tout le monde a un grain, en fait.
On est tous weird.
Voilà,
et il faut
à
vivre ensemble.
On l'accepte, en fait, là, elle finit très heureuse d'ailleurs avec le pervers du coin.
Ouais, je vous rejoins totalement sur tout ce que vous avez dit dans vos avis. Juste parler un peu de la technique. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper bien animé. Alors que dans la BA, ou les affiches et tout, je trouvais les personnages un peu moches. En fait, tu t'habitues en une seconde à ce style visuel. Et après, c'est hyper cartoonesque. Il y a plein d'effets avec les yeux et tout. Enfin, c'est hyper. J'ai trouvé le film beau, en fait, avec une belle lumière et tout. Et moi, après, j'ai pas vécu le truc comme vous sur Disney. Moi, j'ai vécu vraiment contre Trump, parce que je trouve qu'elle a vraiment la tête. Ce personnage s'appelle Margot Wheeler, je crois, a vraiment la tête de Trump, avec un peu elle est blonde, peroxydée et tout. Et c'est l'image. Déjà, elle fait une émission de télé-réalité comme a fait Trump avant. Et c'est la meuf qui est obsédée par l'audimat, la popularité, l'argent, construire une grande ville où tout le monde est absolument identique.
Puis elle surveille les gens.
Et surtout, oui, elle est anti-immigrée, en
Cambridge
fait.
Cambridge Analytica.
Oui,
le truc,
oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, puisqu'elle en fait, elle a fait poser des caméras dans toutes les maisons de la ville, à l'insu évidemment des habitants. Et donc il y a aussi cet aspect-là. Et puis elle est en fait anti-immigrée, puisque Léa Adams, tu comprends qu'ils sont pas américains. Lui, il a un accent, même en VO, il a un accent chelou, mi-espagnol, mi-irlandais.
D'ailleurs, il le répète souvent, on a été chassés de notre terre.
Oui, voilà. Et en gros, il faut bouter les immigrés hors du territoire. Il y a une scène très drôle où en fait, les gens du coup se révoltent et veulent virer la famille Adams, et au lieu de venir avec des torches, ils allument leur smartphone, et sur le smartphone il y a une image de torche. Et voilà, je trouve que ça résume assez bien l'esprit du film. Mais voilà, vraiment, vraiment d'accord avec vous, pas grand chose d'autre à ajouter pour le coup. Mais un bon film d'animation qu'on vous recommande, en tout cas autour de la table, on est assez unanime.
Et finalement, la fin, c'est un peu comme si c'était Edouard mon argent, mais qui termine bien. Parce que dans Les Dormants d'Argent, t'as cette banlieue. Tu l'as pas vu ?
Non.
Incroyable !
Mais c'est un Terrence Malick pourtant.
Mais dis-moi ça, je vais y aller direct.
Ah, mais non, mais il faut que tu le vois. Dans Les Dormants d'Argent, il y a un truc très similaire, c'est que c'est quand même la banlieue américaine. Et d'ailleurs, lui, c'était aussi un truc un peu contre Disney, parce qu'il venait de là et en même temps, il détournait le truc. C'est la banlieue toute rose et vert pistache.
C'est vert cacadois,
vert pistache. Et tout le monde est coiffé pareil, un peu comme la mélange. méchante avec des grosses mises en pli et tout. Et au début, tout se passe bien, mais à la fin, ils retournent quand même tous les habitants du quartier vers le manoir d'où vient Edward. Et en fait, ça se termine très mal à ce moment-là.
Oui, et là, il y a quand même un gros happy end. Qui, moi, c'est, voilà, c'est un petit bémol que j'ai sur le film, parce que comme c'est très corrosif et tout, on s'attend quand même pas à ce que vraiment ça soit. Et même elle, à la fin, elle se mélange avec les Adams, ça c'est magnifique. Bon, bah, c'est.
Ça reste,
pourquoi
ça reste
pas
un film pour enfants.
Elle est quand même ridiculisée. Voilà. Hein.
Elle est quand même ridiculisée jusqu'au bout, mais bon.
Pour... Oui, et puis en plus, ça finit avec le dernier des mecs, quoi.
Ouais, justement, ils disent que c'est la dernière des meufs qui termine avec le dernier des mecs, c'est donc vrai. C'est drôle.
En même temps, ce Sage Party finissait sur une partouze, donc là aussi, un grand mélange des peuples. Allons-y, mélangeons-nous.
Partouze. Musulmans juifs.
Musulmans avec un bagel, il y avait
le message politique qui était là.
Ouais.
Voilà, et ben écoutez, on a plutôt bien kiffé la famille Adams. On vous le recommande chaudement. Et vous, à qui le recommandez-vous? À qui le rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui le rococo?
À qui le recommandez-vous?
À qui? Une rubrique de recommandations sur le ton de l'humour propre à Feta Béa. Alors Erwan, toi, à qui le rococo mandes-tu?
Moi, je le rococo mande à tous les influenceurs de cette planète. Arrêtez de montrer ce que les gens veulent voir sur Instagram et commencez à vous montrer vous-même.
Waouh,
wow, c'est wow. Une recommandation.
Une recommandation politique.
Tu travailles chez Disney?
Ça, c'est beau, c'est beau. Ça.
Kevin, non, à qui le rococo tu?
Eh ben moi, je le recommande à la FFE, la Fédération Française d'Escrime, parce que je pense que la mazurka devrait devenir une discipline olympique.
Absolument.
Oui, je suis d'accord.
C'est très, très esthétique, la mazurka. Clémence, le rococo, à qui le tu?
Je le rococo à l'industrie cosmétique, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé l'idée du maquillage avec les cendres des défunts. Et je pense que si on utilisait cette matière pour faire des produits cosmétiques, fard à paupières et tout, on ferait un peu moins mal aux animaux et ça serait du recyclage.
L'écologie.
On utilise des animaux morts, pourquoi pas des humains? C'est ce que nous dit cette famille Adams. Et ça fait quand même deux fois qu'on recommande un film d'animation à l'industrie cosmétique.
Oui.
Puisqu'on avait recommandé La Reine des Neiges à L'Oréal, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'elle avait un maquillage qui tenait en toutes circonstances, même sous l'eau.
Tout à fait.
Et ben écoutez.
Et toi, tu le rococo pas?
Et ben non, parce que j'ai pas prévu. Mais écoutez, sur ces belles recommandations, je crois qu'il est temps de se dire au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà, je vais faire comme Romain. Voilà, voilà, une vie cachée de Terrence Malick et un podcast qui ne se cache pas et qui ira voir ce film en salle très bientôt. Mais vous n'aurez pas droit au match retour la semaine prochaine. Réaction auditive.
C'est inadmissible.
Je me suis dit,
un podcast spontané. Pourquoi vous n'y aurez pas? Parce qu'on vous prépare une belle surprise pour les fêtes. Un épisode spécial dans une galaxie lointaine. Donc, une vie cachée, ça attendra probablement janvier. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Parce que nous sommes sur les réseaux.
Le roi de la transition. Enthousiaste de cette transition.
Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, évidemment, likez-nous, suivez-nous, on poste plein de bêtises. Et nous sommes également sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute, celle sur laquelle vous êtes en train de nous écouter en ce moment même, mais aussi beaucoup d'autres, comme par exemple toutes les autres, que à part celle sur laquelle vous nous écoutez. Donc Podcast Addict, Ocha...
Tu nous as fait une Alain Chabat, on aurait dit un truc à la Burger Quiz.
iTunes, que sais-je, vous tapez dans Google et
je connais pas que sais-je.
C'est quoi que sais-je?
De livres, mais en fait, parce qu'ils font aussi podcast.
Ils font livre audio.
Podcast visuel.
On est sur que sais-je. Voilà, retrouvez-nous. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc retrouvez-nous partout. N'hésitez pas à commenter, confrontez-nous, challengez-nous. Nous sommes là pour ça. Écoutez, la team, vous avez été super. Je vous remercie beaucoup.
Et toi, tu as été super. Bravo.
Oui, bravo.
Merci. Et merci à Romain aussi.
Merci. Et puis, on va retrouver Romain rapidement parce que c'est quand même son métier hein, d'animer. Moi, à part une foire au vin à Carrefour, bon, j'ai pas vraiment d'expérience dans l'animation.
C'était la meilleure foire au vin à laquelle j'ai assisté.
Ouais. Super chiffre
d'affaires. Très belle foire au vin. Eh bien, je vous remercie. Puis vous aussi, les auditeurs, bonne écoute. Et puis, kiffez la life. Voilà. Même si vous devez vivre caché. Vivez
même si vous devez vivre dans les grèves.
Comme le dit Terence Malick. Salut.
Salut.
Salut à tous.
Shoshana!